Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux hommes, aux couples qui vivent ou ont vécu la PMA ou ont rencontré des difficultés pour concevoir. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage. Mon objectif, libérer la parole autour des difficultés à concevoir un bébé et à commencer ou à grandir une famille. Moi, c'est Anne Fleur. Ce podcast a été imaginé comme un outil auquel j'aurais aimé avoir accès pendant mon parcours. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous prenons la direction de la Normandie et partons à la rencontre d'Alexandra. Il y a un peu plus de 5 ans, Alexandra et son conjoint décident de se lancer pour fonder leur famille. Faisant confiance à ses cliniciens de ville, le gynéco d'Alexandra attendra pas moins de 2 ans et demi avant de décider enfin de l'orienter vers la PMA. Traité dans le cadre d'une infertilité inexpliquée, le couple reste positif et déterminé. Une première insémination se termine en fausse couche spontanée très précoce, un premier coup de dieu. Puis une grossesse tant attendue, tant espérée débute, comme son conjoint l'avait prédit. Oui, mais Alexandra sent que quelque chose ne va pas, mais personne ne la croit. Elle ne perd pourtant pas de sang, mais a tellement mal. C'est finalement au bout de quelques jours de malaise à répétition pour lesquels on lui a plus ou moins rayonné qu'elle découvre l'improbable. Elle attend des jumeaux, mais la grossesse est hétérotopique. Ce qui veut dire qu'un bébé est bien installé dans l'utérus, mais que l'autre est resté dans la trompe. Elle suit donc une grossesse extra-utérine et une intra-utérine simultanément, ce qui est un phénomène rarissime. Je vous rassure, malgré un parcours de véritable Wonder Woman, Alexandra a bien eu son happy ending et le petit Samuel est né en juillet dernier. Allez, c'est parti, à la rencontre d'Alexandra. Bonjour Alexandra, bienvenue sur le podcast.
Merci Anne-Fleur, bonjour à toi.
Alors, comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui ?
Eh bien merci, je vais très bien. Aujourd'hui, je te parle de Rouen. J'habite une petite commune à la campagne dans l'agglomération rouennaise. Donc c'est dans le département du 76, un petit peu au-dessus de Paris, dans la région...
En Normandie.
Oui, exactement, c'est ça, en Normandie.
Ok, super. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, m'en dire un petit peu plus sur toi ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Quel âge tu as ? À quoi ressemble ton quotidien ?
Alors, je suis Alexandra, j'ai 31 ans, je suis assistante administrative et je suis actuellement avec mon conjoint depuis 11 ans et nous sommes mariés depuis bientôt 7 ans.
Félicitations !
Merci beaucoup. Oui, nous sommes depuis très peu les heureux parents d'un petit garçon qui a 7 mois.
Yeah, double félicitations. Alors du coup, comment il s'appelle ?
Il s'appelle Samuel.
Ah, c'est trop mignon. Alors justement, tu nous as parlé de ton conjoint. Je vais te demander donc, on parle ici de PMA, on parle de la difficulté à devenir parent. Tu le sais, ça se passe pas toujours comme on l'aurait voulu. Vous vous êtes lancés donc tous les deux relativement rapidement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu à quoi ressemblait ta vie, votre vie au moment de vous lancer dans le parcours bébé ?
Alors oui, en fait, je vais du coup réexpliquer un petit peu dans quel contexte j'étais à ce moment-là. En fait, depuis que je suis adolescente, depuis que j'ai mes règles, j'ai toujours eu des règles extrêmement douloureuses. Tous les mois, c'était vraiment très difficile pour moi. J'ai régulièrement manqué des cours à cause de ça. Adulte, il m'est même arrivé de manquer des jours de travail. J'avais tellement mal au moment où mes règles étaient là. J'ai eu la chance d'avoir un suivi gynécologique de ville très jeune. Elle a même suspecté pendant un temps une éventuelle endométriose. Elle m'avait fait passer des examens, dont une IRM pelvienne. Mais voilà, ils n'ont jamais rien trouvé, en tout cas rien de bien significatif. Donc on a clairement laissé tomber la suspicion d'endométriose et au moment donné où j'ai arrêté ma pilule, en fait je prenais une pilule en continu depuis presque 3 ans, justement pour ne plus avoir mes règles et surtout pour ne plus souffrir tous les mois. Donc voilà un peu dans quel état d'esprit moi j'étais à ce moment-là. Donc, au tout début juillet 2015, avec mon mari, on s'est dit que ça allait être le bon moment. On avait un travail tous les deux, on vivait ensemble depuis plusieurs années, on s'aimait fort. Donc, on s'est dit, allez, ça va être le bon moment, on va pouvoir lancer le projet pour agrandir notre famille. C'était vraiment un projet commun, c'était un désir qu'on avait tous les deux de devenir parents. On en parlait déjà depuis de nombreuses années et voilà, notre situation était maintenant propice. Donc on s'est lancé. Moi, j'ai arrêté ma pilule tout début du mois de juillet 2015. J'étais super contente, mon mari aussi. On était vraiment dans l'excitation. C'est un grand projet dans une vie, donc on était super contents. C'est vrai qu'un enfant dans une vie, dans un couple, c'est un sacré changement, mais c'est vrai que j'avais toujours au fond de moi cette crainte de récupérer mes règles naturelles, du coup, sans pilule. Donc, j'avais un petit peu peur à ce moment-là de ce qui allait bien pouvoir m'arriver. Ce qui fait que quand j'ai décidé d'arrêter ma pilule, j'ai pris très rapidement rendez-vous avec ma gynécologue pour lui expliquer qu'on partait sur un projet bébé. Et surtout pour essayer de discuter avec elle et de voir si elle avait éventuellement des propositions à me donner pour essayer de soulager mes règles tous les mois. Ou en tout cas avoir quelque chose sous la main qui pourrait m'aider à surmonter mes douleurs. Bon, très honnêtement, à part des douleurs classiques du style Spasfon, Doliprane, machin chose, elle m'a pas donné grand chose. Mais bon, elle était plutôt confiante, elle m'a dit ne vous inquiétez pas, vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de raison que ça prenne pas rapidement. Donc voilà, en gros, pour elle, je n'allais vraiment pas avoir de mal à tomber enceinte rapidement. On se lance du coup début juillet 2015, les premiers mois passent et je ne tombe pas enceinte. On arrive rapidement au début d'année 2016, je ne suis toujours pas enceinte. De mon côté, la psychose commence à me gagner. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître dans mes propos, dans le sens où tous les mois, tu attends littéralement tes règles à la minute près et tu psychotes à chaque fois. T'as toujours l'impression que t'as mal au sein, que t'as mal au ventre, que tu as des fringales, alors qu'en fait, pas du tout.
Ouais. Et justement, le fait que t'aies des règles hyper douloureuses et tout, elles étaient quand même régulières une fois que t'as arrêté la pilule?
Absolument pas. Mes cycles, c'était l'anarchie totale. Je t'explique même pas le nombre de tests de grossesse que j'ai claqués sur les premiers mois parce que à chaque fois, je croyais que...
Moi, pareil.
toi aussi. Donc, tu vois, je me sens beaucoup moins seule d'un coup. Non. Donc, du coup, j'avais un jour, j'avais un cycle à 21 jours, le cycle d'après 54 jours, ce qui fait que je me suis fait un bon petit budget test de grossesse qui était naturellement tous négatifs à chaque fois. Donc bon, et puis voilà, autour de moi, les grossesses se sont multipliées dans mon entourage, proche ou moins proche. J'étais très contente pour toutes ces femmes près de moi, mais bon, je commençais à me dire, excusez-moi l'expression, mais ça commence à me faire chier pour moi. Et puis cela ne faisait que 6-7 mois, alors je me dis, allez, ça fait pas encore très longtemps, relativise, j'ai pris la pilule pendant 15 ans, donc il faut aussi laisser du temps à mon corps de se remettre. Voilà, on essaie toujours de se rassurer comme on peut, même si t'es triste pour toi, t'es contente pour les autres, mais t'as quand même hâte que ça tombe pour toi, en fait.
Ouais, donc pas de panique, tu attends, et puis ton mari aussi.
Oui, voilà, pas de panique, j'attends impatiemment, vraiment, mon mari aussi. Mais lui, il est vraiment en mode cool, voilà, c'est la force tranquille, il y croit, il sait qu'on va y arriver, tout va bien se passer, on a le temps. À cette époque, on avait 27 et 28 ans, donc on était relativement jeunes, donc pas de panique. On prend notre temps. Sauf que 2016 avance à grands pas, je ne suis toujours pas enceinte, les mois s'enchaînent. À ce moment-là, printemps 2016, on était plutôt bien occupés. Je pensais un petit peu moins au projet bébé parce qu'on était dans une recherche d'une maison. C'était notre premier achat. Donc c'est vrai que les semaines et les mois s'enchaînent très rapidement et au final, on arrive vite au mois de juillet 2016. Donc ça fait déjà un an que j'ai arrêté ma pilule et que je ne suis toujours pas tombée enceinte. Il ne s'est vraiment rien passé à ce niveau-là. Donc je décide d'aller refaire un petit point avec ma gynécologue pour voir un peu ce qu'il en est. Bon, je vous passe les détails, mais tous les mois, j'ai des règles très douloureuses. Les antidouleurs ne servent pratiquement à rien. La seule chose qui me soulage, je fais un petit clin d'œil à mes deux meilleures amies. Elles étaient naturellement au courant du projet et de tout ce qui se passait dans notre vie. Et elles m'ont acheté une petite bouillotte. Donc, ma meilleure amie bouillotte est avec moi tous les mois à ce moment-là. La chaleur, c'est vraiment la seule chose qui me soulage. Les antidouleurs ne servent à rien, mais par contre, la bouillotte, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Donc voilà, je retourne voir ma gynécologue, du coup, on fait le point, elle me dit, bon, madame, ça fait qu'un an, pour le moment, on ne panique pas, on vous laisse encore un petit peu de temps, je vous laisse jusqu'au début de l'année 2017, et puis on refait le point à ce moment-là. Bon, écoute... c'est reparti. Entre deux, on a trouvé notre maison, on a acheté notre maison, on a fait les crédits et puis voilà, on emménage pendant l'été 2016. Donc déjà, ça c'est une très bonne chose, c'est une super nouvelle.
Ouais, donc elle te dit rendez-vous dans 6 mois, quoi. Enfin, elle est quand même sacrément cool, ta gynéco.
Ah oui, elle est plus que cool, elle ne se prend vraiment pas la tête. Non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Ouais, elle n'est pas inquiète, quoi.
Non, elle n'est pas du tout inquiète. Entre deux, je crois qu'elle m'avait fait faire un bilan hormonal, tu sais, pour voir un peu si les hormones féminines sont bien présentes en quantité, et puis via une prise de sang. Et au final, tout est nickel, tout va bien. Donc en fait, elle, ça la rassure vraiment dans le sens qu'il faut juste patienter et que ça va prendre naturellement, voilà.
Ouais, elle n'avait pas de raison du coup de s'inquiéter.
Exactement, donc on arrive très rapidement encore une fois en début d'année 2017. Moi, entre deux, la psychose et la tristesse sont fortement installées dans ma tête. Je commence à être beaucoup moins bien, à vraiment être triste. Ça commence vraiment à me saouler. C'est long, j'en ai ras-le-bol. J'ai beaucoup de mal à relativiser et à être optimiste sur le fait que je tomberai enceinte naturellement. Tous les mois, en fait, j'arrive vraiment à repérer mon ovulation. Donc, c'est à ce moment-là qu'avec mon mari, on fait les câlins. Et puis, je sais très bien que 15 jours après, il ne se passera rien. C'est une déception tous les mois. Je me prends une claque tous les mois, en fait.
Ouais, c'est dur.
Oui, clairement, ça commence vraiment à être très dur. C'est long. Je suis vraiment plus optimiste. Je suis démoralisée. Ça me saoule, quoi. Vraiment, ça me saoule. À ce moment-là, du coup, je décide d'aller un petit peu me renseigner sur Internet et sur les forums d'ECBB pour essayer de trouver un peu de conseils et un peu de réconfort auprès de toutes ces femmes qui, naturellement, sont dans la même situation que moi. Je repère qu'apparemment, l'acupuncture peut avoir une très bonne influence sur la fertilité.
Ah, ok.
Je me dis... Voilà, donc je me dis, pourquoi pas, je me lance. Je trouve une spécialiste pas très loin de chez moi. Donc je prends rendez-vous très rapidement, courant janvier 2017. Je passe tous les détails du rendez-vous, mais en gros, une fois que j'arrive, je lui explique clairement le pourquoi de ma venue. Et elle m'explique qu'elle va me planter des petites aiguilles à des endroits très spécifiques de mon corps. C'est vraiment pas désagréable. Je te dirais même qu'au contraire, je passe un très bon moment, une bonne petite demi-heure où je me détends. Et franchement, ça me fait du bien.
T'avais déjà fait de l'acupuncture avant ou pas du tout? Tu savais pas trop à quoi tu t'engageais?
Jamais, jamais. Voilà, exactement. C'était la première fois et franchement, c'était une bonne expérience, vraiment.
Ouais, pas d'appréhension
Non, aucune appréhension. Aucune, vraiment. Comme je te dis, je passe vraiment un super moment. Et à la fin de la séance, la médecin, la spécialiste en acupuncture...
L'acupuncteur?
Oui, voilà, l'acupuncteur, pardon. Elle me demande où j'en suis dans mon cycle. Et en fait, à l'instant T, je lui dis que je suis certaine d'avoir déjà ovulé. Elle me dit littéralement, mot pour mot, « Bon, écoutez, pour ce mois-ci, il ne se passera rien, mais le mois prochain, vous êtes enceinte. » Ok, d'accord.
What?
ouais, c'est ça. Oui, elle me dit ça, elle me dit carrément, mot pour mot, vous êtes enceinte le mois prochain. Ok, d'accord, elle est trop gentille, elle.
Mais comment elle explique ça?
Je sais pas trop. En fait, elle me dit que dans le corps, il y a des choses par rapport à ton vécu, des fois par rapport à des traumatismes qui peuvent se bloquer. Le fait de faire une séance d'acupuncture, mais en fait, ça débloque ces petites choses et voilà, et ça peut remettre en route une fertilité un peu bloquée. Donc, en gros, elle m'aurait débloquée et elle me dit, le mois prochain, vous êtes enceinte. Mais bien sûr, donc ok, bah pas de problème.
Bon, tu vas nous raconter, mais enfin, c'est quand même vachement dangereux de dire des trucs comme ça aussi affirmatifs sur oui, des projets aussi compliqués.
Oui, c'est vraiment, elle est vraiment dans l'affirmatif, elle a pas de doute sur ce qu'elle me dit. Moi, honnêtement, je me fais pas d'illusions, enfin, j'y crois pas du tout, je me dis ça serait vraiment trop facile que ça marche comme ça. Donc je termine mon cycle tranquillement, mes règles arrivent, hein, comme prévu, pas de problème. Et là, un nouveau cycle commence et bah, en fait, mes règles suivantes n'arrivent pas. voilà, elles n'arrivent pas, donc j'ai quelques jours de retard. Bon, je me dis, allez, c'est encore un cycle, n'importe comment, je vais faire encore un plus grand cycle, c'est pas grave. Les jours passent et j'ai toujours pas mes règles. Bon, bah là, je me dis, bah, j'ai peut-être quand même me claquer un petit test de grossesse, quoi, pour être sûre, hein, tu vois, quand même.
C'est ce que j'allais dire, t'as des actions quand même chez Clear Blue, c'est le temps de les utiliser.
Ah oui, j'ai clairement eu des actions Clear Blue, ça c'est clair. je m'en rappellerai toujours, c'était un jeudi soir, en fait. Je pars du travail, je passe à la pharmacie, j'achète une boîte de tests, il y en avait deux dedans. Je rentre à la maison naturellement et j'attends pas les urines du lendemain matin pour faire le test, je le fais dès que je rentre.
Impossible, on est bien d'accord.
Ah bah non, clairement, tu peux juste pas attendre, là c'était juste pas possible. Donc j'ai fait mon petit test et puis bah là, il s'avère qu'il est positif.
C'est dingue!
Ah non, mais c'est plus que dingue, c'est ouf, c'est un truc de fou. Franchement, je me dis, mais c'est juste pas possible, c'est un hasard ou c'est vraiment l'acupuncture qui a marché. Mais en tout cas, franchement, j'en reviens pas, quoi, c'est juste incroyable.
C'est une magicienne, ton acupunctrice.
Je te jure, ouais, elle est magicienne, c'est clair. Donc, je reste quand même un peu bête devant ma deuxième barre du test qui est enfin apparue pour la première fois depuis tous ces longs mois d'essai. Et je me dis, non, mais c'est une blague, quoi. Je n'y crois vraiment pas du tout.
Tu l'as tellement voulu et puis finalement, le moment où tu la vois, t'y crois pas, quoi.
C'est exactement ça. Tu dis, non, mais c'est une grosse blague. On me fait une blague. Donc, j'en parle à mon mari quand il rentre le soir. Je lui dis... clairement, je crois que je suis enceinte. Et il me répond, bah comment ça, tu crois? C'est vraiment l'annonce la plus pourrie du monde. Et je lui dis, bah regarde le test, il est positif. Donc il est super content, mais il me dit, écoute, on s'emballe pas. Ça serait bien que tu fasses une prise de sang. Au moins là, on sera vraiment sûr. Ça reste quand même le diagnostic de grossesse le plus fiable. J'avais une ordonnance sur moi pour faire une prise de sang pour un dépistage grossesse. C'était ma gynécologue qui me l'avait donnée à l'époque quand j'avais commencé mes essais. Et comme ça, elle m'avait dit, bah le jour où vous pensez être enceinte, vous le faites et vous êtes tranquille. Donc le lendemain matin, le vendredi, du coup, avant d'aller travailler, je décide d'aller au lab. Laboratoire, pour faire ma prise de sang. Entre deux, quand même, le matin, avant de partir travailler, j'avais fait mon deuxième test de la boîte, forcément, j'allais pas le laisser tout seul. Il était également positif, donc je commence à me dire, ouais, ça commence à être bien, quoi. Enfin, ça sent vraiment bon. Je pars faire ma prise de sang au laboratoire et là-bas, ils me disent que les résultats sont disponibles sur Internet en fin de matinée. Donc, pas de problème, je vais travailler. Sauf que, voilà, quand on n'a pas de bol, on n'a pas de bol. Dans la matinée, je commence à avoir mal au ventre. Tu sais, un peu comme si j'allais avoir mes règles. Je commence à avoir des crampes dans le bas-ventre et puis je me dis, je vais aller faire pipi. Et là, je m'essuie et clairement, il y a du sang rouge sur le papier, en fait.
Et tu perds beaucoup de sang ?
Beaucoup, non, c'était vraiment pas en grande quantité, mais bon, c'était du sang, c'était du sang bien rouge, c'était pas du vieux sang un peu marron, c'était vraiment du sang. Là, je me prends une claque quand même, je me dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment enceinte, je le suis pas, je comprends vraiment pas ce qui m'arrive. Je me dis, j'attends mes résultats de prise de sang pour être sûre, et puis en fin de matinée, je me connecte sur le site du laboratoire, les résultats sont disponibles, et je vais voir, et là, mon taux d'hormone bêta-HCG est à 18. Donc il faut savoir qu'une prise de sang pour détecter l'hormone, en fait, on estime qu'en dessous de 5, on n'est pas enceinte. Après, il y a des valeurs un peu types pour estimer une grossesse, et surtout le temps de grossesse. J'étais à peu près persuadée d'avoir ovulé 3 semaines plus tôt. Donc là, clairement, mon taux à 18, bah, ça correspond à rien, ou en tout cas, ça correspond pas à mon terme. Bah, je commence à comprendre clairement ce qu'il est en train de m'arriver. En partant du travail le soir, je décide de retourner au laboratoire pour avoir des explications. Et là, la dame de l'accueil me dit bah, écoutez, madame, ça ressemble à un début de grossesse, mais qui s'est arrêté rapidement. Vous êtes sûrement en train de faire une fausse couche.
Et quand tu as commencé à perdre du sang, du coup, tu t'attendais un peu à une issue comme celle-ci ?
Bah, je m'y attendais pas spécialement, mais je me suis dit enfin, je savais que j'étais en début de grossesse. Je sais qu'il peut arriver de perdre un petit peu de sang parce que voilà, les hormones, l'utérus, ça travaille, ça bouge, le col aussi, ça peut être un peu sollicité. Donc, je sais que des fois, en tout début de grossesse, il y a un petit peu de sang, mais c'est pas forcément quelque chose de mal, ça arrive. Donc, je restais quand même un petit peu optimiste. Puis bon, bah là, voilà, avec la prise de sang, puis la dame qui me dit que vous êtes en train de faire une fausse couche, bah c'est mort, quoi. Donc, je rentre le soir, je dis à mon mari, bah écoute, c'est mort. C'est mort, je suis en train de faire une fausse couche. Du coup, bah on est un peu anéanti. À ce moment-là, moi, je savais pas ce que c'était qu'une fausse couche. Enfin, je savais ce que c'était, mais je savais pas ce que j'allais vivre, ce que j'allais ressentir. En fait, dans la journée du vendredi, du coup, et du samedi, j'ai un petit peu saigné. En gros, un peu comme si j'avais mes règles. Je me dis, bon, bah, franchement, ça va, physiquement, c'est pas trop traumatisant non plus à vivre. Sauf qu'en fait, le dimanche, en fin de journée, je décide d'aller prendre ma douche dans ma baignoire. Et en fait, je ne sais pas trop comment ça s'est fait, mais je passe le jet d'eau sur ma tête et j'ouvre les yeux. Et dans ma baignoire, c'était littéralement une mare de sang. Il y avait des éclaboussures partout, du sang partout, mélangé avec de l'eau. Enfin, ça a vraiment pris des proportions dingue, c'était vraiment digne d'un film d'horreur. Je me mets à hurler, mon mari m'entend, il arrive en courant très rapidement à côté de moi et là je suis en train d'évacuer ce qu'il y a dans mon utérus. Je vois je vois et je sens des morceaux sortir de moi. C'est hyper traumatisant, franchement. Moi, je ne m'attendais pas à ça. En fait, on t'en parle vraiment jamais. On te dit oui, j'ai fait une fausse couche, mais en fait, personne t'explique vraiment ce qui va t'arriver parce que toi, physiquement, il se passe quand même des choses et ça, on n'y est pas préparé. Donc, bah, je suis dans ma petite baignoire, j'évacue des espèces de gros caillots de sang. Je les sens littéralement passer, hein, vraiment, je les sens. Donc, je passe pas vraiment un très bon moment, là. C'est un des pires moments de ma vie, là, je crois. C'était vraiment... c'était chaud, quoi.
Ah, d'accord. Et t'avais parlé à un médecin ou à un quelconque membre d'une équipe médicale entre ce que la dame de l'accueil donc du labo d'analyse t'avait dit et ce moment-là ? Enfin, je veux dire, t'avais une quelconque idée de ce qui allait t'arriver ?
Non, non, vraiment aucun accompagnement médical. Sur le coup, le vendredi, quand j'avais vu les résultats de ma prise de sang, je m'étais dit, j'irais peut-être faire un petit tour aux urgences obstétriques. Et puis je me dis, bah, de toute façon, mort pour mort, voilà, je laisse mon corps faire. Voilà, mais je m'attendais pas vraiment à vivre ça. J'étais vraiment pas du tout préparée. Du coup, donc le week-end se termine. Le lundi, je vais pas travailler. Franchement, j'en suis incapable physiquement et moralement. Je suis vraiment pas bien. Je suis quand même allée voir mon médecin traitant dans la journée du lundi, quand même, hein, pour aller voir un professionnel. Il m'a demandé de faire une échographie pour bien vérifier que mon utérus avait tout évacué et surtout qu'il restait rien à l'intérieur. Donc le mardi, je vais faire mon échographie. Effectivement, l'utérus avait vraiment évacué tout, il restait plus rien. C'est ce qu'on appelle une fausse couche spontanée, en fait, tout s'évacue tout seul. C'est vraiment sorti naturellement, j'ai même pas dû passer par la phase médicament, donc à ce niveau-là, déjà, c'était plutôt pas mal pour moi. J'ai tout évacué toute seule comme une grande, hein, super. Et mon médecin traitant me demande quand même d'essayer de faire un cycle de repos avant de reprendre les essais. Je lui dis, bah d'accord, pas de problème. De toute façon, clairement, tu penses pas tout de suite à repartir sur les câlins quand tu viens de faire une fausse couche, hein, faut que tu te remettes. Et puis on a laissé un cycle de repos et on a repris tranquillement. Donc voilà, on a repris notre vie de tous les jours. Et moi, je me suis quand même prise à ce moment-là une grosse claque. Hein. C'était dur. Hein. J'ai mis du temps avant de pouvoir passer à autre chose. Hein. Ça reste un épisode traumatisant. La fausse couche, oui, ça c'est sûr que c'était vraiment traumatisant pour moi.
Bah ouais, je comprends.
Un an et demi d'essai bébé, un an et demi d'attente pour tomber enceinte et pour finir sur une fausse couche. Enfin, on se fout un peu de ma gueule, quoi. Désolée, mais enfin, stop, quoi. C'est bon. Après, voilà, j'essaye de me rassurer en me disant, bon, allez, ça a marché une première fois naturellement. C'est déjà un bon signe. J'ai pas eu de chance, mais ça va peut-être reprendre. Les hormones, elles ont déjà été dans mon corps. Ça a déjà fonctionné. Donc, on se dit, bon, bah, ça va peut-être fonctionner rapidement. Voilà. Sauf qu'en fait, bah, ça refonctionne pas du tout. je retombe pas du tout enceinte naturellement. En gros, j'ai fait ma fausse couche début mars 2017 et en début d'année 2018, je retourne voir ma gynécologue et là, elle me dit « Bah madame, je peux plus rien pour vous. Je vais vous faire un courrier et, pour que vous vous rapprochiez d'un centre de PMA. »
Mais elle t'a laissé traîner vachement longtemps quand même, non ?
Ah bah oui, complètement, parce que entre le moment donné où j'ai commencé les essais et le moment donné où le terme PMA a été prononcé, ouais, il y a eu 2 ans et demi.
C'est dingue !
Ouais, carrément, c'est dingue.
Comment t'expliques ça ?
Bah, en fait, je l'explique pas, mais elle est partie du principe que j'étais déjà tombée enceinte naturellement. Elle m'a dit, bah ça va reprendre, donc ça va reprendre, donc faut y croire, ça va reprendre. Sauf que ça a pas repris. Et donc, bah, début 2018, avec mon mari, on se rend dans une clinique de PMA pas très loin de chez nous. Il y avait un centre. Donc, on est pris en charge à ce moment-là.
Et vous êtes dans quel état d'esprit à ce moment-là ?
Quel état d'esprit ? Moi, je suis au bout de ma vie, clairement. Bah, je suis juste dégoûtée, quoi. 2 ans et demi pour finir en PMA, j'avais vraiment super peur, quoi. La PMA me faisait vraiment très peur. C'était une déception et ça me faisait peur. Et c'est super dur parce que, bah, logiquement, sur le papier, tout est censé marcher aussi bien pour mon mari et pour moi. Et alors, pourquoi on va sur de la PMA? Clairement, moi, j'ai carrément la trouille. Et je me dis, ouais, j'ai pas envie de finir en FIV. Ça me fait peur. Donc, on est pris en charge rapidement. On a notre premier rendez-vous avec la spécialiste. Donc, on lui explique le parcours, la raison de notre venue. La spécialiste nous donne une batterie d'examens à passer. Pour mon mari et pour moi, surtout pour moi. Mon mari, lui, il a un spermogramme à faire. Et moi, je me rappelle plus exactement, mais en gros, j'ai une prise de sang, un bilan hormonal, une hystérosalpingographie, une hystéroscopie, voilà, pour aller voir ce qui se passe dans mon utérus. Et au final, on fait tous les examens avec mon mari et tout est nickel. Tout est parfait, il n'y a rien à redire. Donc, c'est à ce moment-là qu'on rentre dans la catégorie des couples en infertilité inexpliquée. Lui, tout va bien. Moi, tout va bien, mais ça ne matche pas.
Mais alors, qu'est-ce qu'on me propose dans ce cas-là ?
Alors, on ne me propose pas directement une FIV. Je t'avoue que je suis plutôt rassurée à ce moment-là. On nous propose plutôt une première méthode un peu plus douce. Ce sont des inséminations artificielles. Donc en fait, le temps de faire tous les examens, d'avoir tous les rendez-vous, parce que ça prend un peu de temps, je fais ma première insémination artificielle en juillet 2018.
D'accord, donc entre le début d'année, premier rendez-vous et le premier protocole de PMA, il y a quoi, quasiment 6-7 mois entre les deux. Donc c'est 3 ans après que vous ayez commencé le projet bébé, c'est ça ?
Voilà, exactement. En gros, je crois que j'ai commencé mes stimulations, ça faisait vraiment 3 ans, presque jour pour jour, que je prenais plus la pilule.
D'accord, ok. Et alors donc, à quoi ressemble cette première stimulation ?
Donc l'insémination artificielle, en fait, ça consiste à une stimulation ovarienne pour la femme, via des stylos injectables. En gros, premier jour de ton cycle, c'est le premier jour de tes règles. À J3, tu commences les injections, une piqûre dans le bas du ventre tous les jours. Et en gros, au bout d'une dizaine de jours, tu retournes à la clinique PMA pour effectuer un pointage folliculaire. En fait, c'est une échographie pelvienne qui va aller compter et mesurer les potentiels follicules matures au niveau de tes ovaires qui potentiellement peuvent donner des ovules fécondables. Moi, ma première insémination au pointage folliculaire, j'avais 2 follicules matures, un à gauche et un à droite. Donc j'ai continué les injections pendant 2 soirs de suite, et au bout du 3e soir, je devais faire la grosse injection qui déclenche l'ovulation. Ça s'appelle Ovitrel, voilà. Et du coup, en fait, 36 heures après Ovitrel, il fallait qu'on aille...
Direction le centre de PMA.
Oui, voilà, il fallait qu'on aille au centre. On avait rendez-vous à 8 heures du matin pour mon mari pour le recueil de sperme, et à 10 heures pour moi, pour recueillir le sperme, du coup.
Alors, très joliment dit, au passage, avant de raconter comment est-ce que tout ça s'est passé, est-ce que tu peux nous raconter dans quel état d'esprit il était aussi ton mari avec ce changement de protocole? En fait, du coup, ça se fait pas complètement naturellement, tu nous as dit un petit peu pour toi, mais comment ça se passe pour lui?
Bah, mon mari, pour lui, il est plutôt optimiste. Il a de la déception d'être rentré dans un parcours de PMA, mais voilà, il reste optimiste tout le temps, en fait. Lui, la seule chose qui l'embête, en fait, c'est de devoir passer par des spermogrammes, faire un recueil de sperme. Voilà, pour un homme, c'est quelque chose qui est un peu dérangeant, et je le comprends tout à fait, mais c'est vraiment sa seule bête noire. Sinon, c'est quelque chose... voilà, il est toujours hyper optimiste.
Ouais, tu m'étonnes. Je pense qu'on aimerait tous, on préférerait tous faire un bébé sous la couette.
Ah bah oui, clairement, si on avait pu faire un petit bébé sous la couette, ça aurait été super, mais on n'en était plus là, quoi. On avait bien compris que c'était pas pour nous, donc de toute manière, voilà. Donc lui, toujours optimiste, pour lui, tout va fonctionner pour nous, faut juste qu'on y croit. C'est juste une petite aide médicale, mais ça va marcher. Il est vraiment en mode guerrier. On y va, on va y arriver.
Bah c'est super, c'est génial.
Oui, mais heureusement qu'il est là pour me soutenir, parce que sinon, moi, je serais déjà six pieds sous terre, hein, vraiment.
Ouais, c'est ton cheerleader, ton supporter, quoi.
Oui, complètement. C'est mon supporter, c'est mon coach. Moi, j'étais déçue. En mode bougon, c'est la merde, ça me fait chier, c'est pas naturel, c'est pas ce que j'avais envie. Mais voilà, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, et oui, voilà.
Mais mine de rien, ce que tu me disais quand même en termes de statistiques, c'est que plus tu vas essayer, même via la PMA, plus tu as de chances que ça marche. Tu peux me raconter un peu?
Avec les inséminations artificielles, en fait, ton pourcentage de réussite, il est cumulatif. Plus tu fais d'insémination, plus tu as de chances de tomber enceinte.
Tiens, tu vois, pourtant, je suis passée par là sur les inséminations et je ne savais pas du tout. Donc, tu vois, tu m'apprends quelque chose.
Oui, en gros, tu fais la première insémination. Si je dis pas de bêtises, tu as à peu près 15% de chances de réussite. Si tu en fais une deuxième, ça va monter à 35. Une troisième, ça montera à 55. Tu vois, plus tu en fais, plus ça cumule. Donc, pour mon cas, pour la première, la docteure me dit que c'est vraiment un coup d'essai. Elle me dit qu'il faut pas que je me fasse d'illusions, que ça fonctionnera vraiment pas. Il y a vraiment peu de chances que ça fonctionne.
Ah ouais, sympa la médecin pour te mettre bien dans le mood, c'est chouette.
Et comme de fait, hein, après mon insémination artificielle, je dois attendre 15 jours. Et pendant ces 15 jours, je dois mettre des ovules de progestérone dans mon vagin. Au cas où il y aurait une fécondation, voilà, c'est une petite aide hormonale pour faire en sorte que l'embryon éventuellement s'accroche bien dans l'utérus. Donc au bout de ce moment, au bout de ces 15 jours, je dois faire une prise de sang pour déceler mon taux d'hormone bêta-HCG. Donc pour voir si je suis enceinte. Et naturellement, je ne suis pas enceinte. La prise de sang est vraiment négative.
Ah ouais, et tu fais pas de test de grossesse avant cette prise de sang?
Mais bien sûr que oui, j'en ai fait. Bah oui, bien sûr, j'ai fait des tests juste avant de faire ma prise de sang. Ils étaient déjà négatifs, donc c'est vrai que quand j'ai fait la prise de sang, j'avais aucun doute sur le résultat qui allait être affiché. La prise de sang me l'a bien confirmé, et puis voilà. Après, c'est une déception pour mon mari aussi. Pour le coup, ouais, lui là, il a les boules aussi. Il pensait vraiment qu'un petit coup de pouce de la médecine, ça allait fonctionner rapidement, et c'était pas le cas. Donc forcément, on est déçus, et on sait que quoi qu'il advienne, il va falloir qu'on reparte sur un deuxième protocole d'insémination artificielle. On n'est vraiment pas enchanté, mais on y va, quoi. On n'a pas le choix. On n'avait pas de doute sur le fait que ça pourrait fonctionner un jour. On savait, hein, mais après, c'était quand? Quand est-ce que ça allait fonctionner? Quand est-ce que ça allait marcher? Quand est-ce qu'on aurait fini avec tout ça, tu vois? Et moi, j'avais surtout peur que sur la longueur, les inséminations artificielles n'aboutissent à rien. et qu'on soit obligé de passer sur un protocole de FIV. Et moi, ça vraiment, ça me faisait peur, vraiment.
Ah ouais, la FIV t'angoissait énormément, en fait.
Ah ouais, non, mais j'avais... La FIV, ça me terrorisait complètement.
Comment t'expliques ça?
Bah, je l'explique pas vraiment. Après, je sais que c'est des protocoles qui sont quand même beaucoup plus lourds. Les stimulations ovariennes restent les mêmes, je crois, que pour une insémination, pardon. Mais après, tu vois, faut partir sur des anesthésies pour aller recueillir.
Ouais, la ponction.
Oui, voilà, pour la ponction. Tu vois, tout ça, c'est des choses qui sont lourdes hein, pour la femme. C'est pas drôle. Et moi, franchement, je félicite toutes les femmes qui passent par là et qui s'en sortent, parce que vraiment c'est super dur, quoi. C'est vraiment physiquement et moralement c'est très très dur, vraiment.
Ouais, non, je peux tout à fait comprendre. Moi, j'avoue que pendant mon propre parcours, quand on m'a parlé de FIV, c'est quelque chose qui m'a terrorisée. Et même au point où, d'ailleurs, moi, j'étais prête à tout arrêter si on me faisait passer en FIV. Enfin bref, voilà, je m'estime très chanceuse de pas être passée par là, en tout cas pas pour le moment. Alors du coup, à quoi ressemble la suite du parcours? Quelles sont les prochaines étapes pour vous?
Du coup, nous, de notre côté, l'insémination du mois de juillet 2018 n'a pas fonctionné. On reprend pas tout de suite les protocoles parce que on arrive sur les vacances d'été et notre spécialiste en PMA, bah, elle est en congé, hein, normal, elle a le droit aussi.
Ouais, donc petite pause imposée.
Voilà, donc pause imposée, et on doit reprendre un rendez-vous en tout début d'année scolaire pour remettre en place un nouveau protocole. Et du coup, je recommence une deuxième insémination en septembre 2019. Et là, à ce moment-là, en fait, mon mari, il est intimement convaincu que je vais tomber enceinte à la deuxième insémination.
C'est génial. Donc, il te dit, écoute, le mois prochain, c'est bon, quoi, t'es enceinte.
Ah oui, mais je te dis, il m'a dit clairement, mot pour mot, tu seras enceinte à la deuxième insémination et tu seras enceinte de jumeaux. Oui, bien sûr, si tu veux. Mais sinon, t'as fumé quelque chose juste avant ou... Ok, chérie. J'espère que tu vas pas être déçue, parce qu'à mon avis, il se passera rien, quoi.
Ah ouais, donc toi, finalement, t'es encore très moyennement optimiste, en fait. Lui, il l'est vraiment, mais toi, pas du tout.
Ah, moi, je suis optimiste moins, quoi. Moi, je suis en mode, ouais, ok, bon, d'accord. Ouais, sympa, quoi.
D'accord. Mais malgré tout, tu te lances.
Marie motivée à fond, femme désespérée à mort, on fait la deuxième insémination artificielle. Donc voilà, c'est reparti, je fais mes simulations, je fais mon comptage folliculaire. Du coup, j'ai un follicule mature à ce moment-là, à gauche ou à droite, je sais plus. Je déclenche mon ovulation et 36 heures après, c'est reparti, on retourne à la clinique. On fait notre petite affaire et 2 semaines après, naturellement, je dois faire ma prise de sang. J'attends pas la prise de sang, hein, forcément, sinon c'est pas drôle. Donc j'ai des tests de grossesse à la maison et je décide de faire un test de grossesse 3 jours avant. Donc le vendredi, je faisais ma prise de sang de contrôle le lundi. Donc 3 jours avant, le vendredi, je fais un test de grossesse.
Bon, normal, hein, j'aurais pas tenu non plus. Et alors ?
Il est positif.
Yeah!
Donc, il est positif. Et là, je dis à mon mari le soir, mais je fais taper des études.
Ouais, genre de médium, quoi.
Voilà, en divination, parce que je pense que faut que tu fasses une reconversion. Là, il y a vraiment une carte à jouer. Hein. Je perds pas de sang. C'est déjà ça. C'est plutôt encourageant. J'ai une belle deuxième barre qui est apparue, bien franche. Il y avait un deuxième test de grossesse dans la boîte, donc bah, je le fais. Hein. Donc, je le fais le samedi matin, du coup. Il est positif aussi. Et vu que je suis complètement une psychopathe, j'en ai pas assez, je vais acheter un troisième test de grossesse le samedi. Là, j'ai fait un test Clear Blue Digital. Je le fais le dimanche matin et sur la petite fenêtre du test apparaît enceinte 1 à 2 semaines. Donc, ça correspond tout à fait à la date de mon insémination. Là, tu dis, wow, ça commence à sentir vraiment bon, quoi.
Oh, c'est génial.
Je suis très euphorique à ce moment-là, mais toujours je me dis, bon, allez, calme-toi, t'as déjà fait une fausse couche, t'emballe pas. Lundi matin, tu vas faire ta prise de sang et tu verras en fonction du taux, tu vois, parce que y a ça aussi. Hein.
Ouais, non, c'est clair. Enfin, j'imagine quand même que tu passes un bon week-end et que tu attends du coup avec impatience ce fameux lundi matin. Alors, comment ça se passe ?
Donc, lundi matin, bah, comme prévu, avant d'aller travailler, je me rends au laboratoire de la clinique PMA pour aller faire ma prise de sang, donc pour aller contrôler mon taux d'hormone bêta-HCG. J'ai les résultats en fin de matinée, de mémoire, et là, mon taux, il est à 300.
Ouais, c'est bon ça.
Donc bah là, 300, c'est juste dingue. Hein. Je suis enceinte de 2 semaines, j'ai un taux d'hormones à 300, c'est un super bon début. Dans la foulée, je devais appeler la PMA. Bah, pour leur dire les résultats de mon taux. Donc là, la dame m'explique bah, que c'est un très bon départ, mais que je dois faire une prise de sang 48 heures après pour voir si le taux a bien doublé. Parce qu'en tout début de grossesse, en fait, il doit doubler à peu près toutes les 48 heures, 72 heures. Et je dois encore en faire une encore 48 heures après.
Ouais, du coup, ils restent quand même vachement sur leur garde, quoi. Et alors, du coup, comment ça se passe?
La prise de sang du mercredi, mon taux, il a plus que doublé parce qu'il est passé à 700. Et la prise de sang du vendredi, ça a encore doublé parce que mon taux, il est à 1008.
Ah oui, excellent. Donc là, ça sent quand même super, super bon.
Donc bah oui, c'est vraiment génial. Je suis hyper contente, mais je pense que quelque part à côté, je réalise pas vraiment ce qui est en train de m'arriver. C'est dingue, c'est tellement inattendu. Et puis pour le moment, c'est tout le début, donc physiquement, c'est vraiment pas concret pour moi. La PMA me demande de prendre rendez-vous avec une sage-femme de la clinique, parce que là où il y a le centre de PMA, il y a également une maternité. Donc on me demande de prendre rendez-vous avec une sage-femme pour faire une échographie de datation. Donc à ce moment-là, on est fin octobre 2018, et j'ai mon rendez-vous d'échographie de datation vers la mi-novembre 2018. La date, c'était un mercredi, je m'en rappellerai toujours. Voilà, donc je suis enceinte, je ne perds pas de sang, le taux d'hormones est excellent. Donc ça y est, on y est. Avec mon mari, on est tellement contents qu'on décide de ne pas attendre les 3 mois réglementaires pour annoncer la merveilleuse nouvelle à nos amis et à notre famille. On n'y arrive pas, on est tout simplement incapable d'attendre. Donc tout début novembre, en fait, on fait les annonces à tous nos proches, parce que voilà, on voulait vraiment partager notre bonheur avec notre famille et nos amis.
Ah non, mais ça, c'est, je te comprends complètement. Je le raconterai un jour, mais moi, je l'ai partagé avec ma famille, mes frères et sœurs, mes parents, au bout de 3 jours après qu'on ait découvert que j'étais enceinte. Donc, je te comprends tout à fait. C'est hyper dur de pas partager les bonnes nouvelles.
Ah bah oui, c'était vraiment impossible pour nous de ne pas leur dire. Ça faisait tellement de mois qu'on était en essai. Voilà, tout le monde était au courant qu'on était dans un parcours de PMA. On l'avait pas caché. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, tu peux pas ne pas leur dire. Et puis, de toute manière, bon, je pense que nos très très proches nous auraient clairement grillé rapidement, tu sais, ne serait-ce que au cours d'un repas, si moi je bois pas de vin ou si je prends pas un apéro, ils vont se dire bon bah là il se passe quelque chose. Donc c'est pour ça, on voulait vraiment être maître de nos annonces et faire vraiment comme on avait envie plutôt que de se faire griller bêtement comme ça.
Ouais, je comprends tout à fait. Je pense qu'en plus, dans un parcours PMA, la PMA te dicte suffisamment tout sur ton parcours que tu es quand même content de pouvoir reprendre un peu le contrôle de ton destin et de pouvoir annoncer tel que tu le souhaites. Alors du coup, comment est-ce que ça se passe tes premières semaines de grossesse ?
Donc mes toutes premières semaines de grossesse se passent vraiment à merveille. J'ai aucun mot. J'ai pas de douleur, j'ai pas de nausée, ça se passe super bien. J'en arrive même à me dire, mais merde, est-ce que je suis vraiment enceinte, tu sais, parce que quand t'es enceinte et que t'as attendu aussi longtemps et que t'as pas de symptômes de grossesse, les fameux symptômes, bah t'en es presque dégoûtée parce que tu te dis en fait, est-ce que je suis vraiment enceinte? Et oui, il y avait aucun problème, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir une petite nausée à ce moment-là pour me dire bon bah c'est bon, c'est sûr, je suis bien enceinte, il se passe bien quelque chose à l'intérieur de moi.
J'imagine.
Donc par la suite, au bout de quelques semaines de grossesse, il m'est arrivé un truc de dingue. Tout début du mois de novembre, en fait, on travaillait pas, c'était un lundi matin. On travaillait pas avec mon mari, on avait posé un jour de repos. Je suis brutalement réveillée vers 7h du matin par une violente douleur dans le bas-ventre. Une douleur incroyable. J'ai jamais eu autant mal de toute ma vie. Je suis pliée en deux dans mon lit, incapable de bouger. Je réveille pas mon mari à ce moment-là, j'ai mal. Je comprends pas trop ce qui m'arrive, mais je commence à me dire que des douleurs comme ça dans le bas-ventre, il se passe quelque chose qui est pas forcément de bon augure. Donc j'arrive à me lever de mon lit tant bien que mal et je décide d'aller aux toilettes. Clairement, je voulais aller vérifier si j'étais pas en train de perdre du sang, ce qui aurait confirmé l'idée que j'avais en tête de faire éventuellement une fausse couche. Donc je vais aux toilettes et là, je m'essuie, je ne perds pas de sang. Bon, ce qui est déjà bien. Sauf que la douleur est tellement vive que je sens un malaise vagal pointé.
Oh, la vache. Ouais, tu tiens pas, quoi.
Ah non, non, clairement, je ne tiens pas. Je sens que ma tête tourne, je sens que mes jambes deviennent, tu sais, toutes molles, toutes flasques. Je me dis, mais merde, je vais m'écrouler comme une merde sur mes chiottes, quoi. Donc, je décide de me remettre au lit. Et en fait, j'ai juste pas le temps d'arriver jusqu'à mon lit. Je m'effondre littéralement par terre, dans mon couloir, de tout mon poids. Ça réveille mon mari. Le bruit de ma chute, en fait, réveille mon mari qui vient à mon chevet et qui me demande « qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais par terre ?» Et je lui dis « j'ai mal au ventre, aide-moi, quoi. » Il arrive à me porter tant bien que mal pour me remettre au lit. Il me demande de me calmer, de respirer, que ça va aller. J'arrive à me calmer et puis je pense à cause du malaise, en fait, j'arrive à me rendormir. Du coup, quelques temps après, je me réveille à peu près 2 heures après mon malaise et ma chute. Je réveille mon mari qui est toujours allongé à côté de moi et je lui dis... Écoute, faut qu'on aille aux urgences obstétriques. La douleur que j'ai ressentie, elle est pas normale. Même si je perds pas de temps, enfin, il va falloir que j'aille contrôler parce que là, ça va pas du tout. J'étais pas encore inscrite dans une maternité à ce moment-là parce que j'étais enceinte de 5 semaines de grossesse, donc soit 7 semaines d'aménorrhée, en gros. Donc, on se lève tous les deux, on prend un petit déjeuner rapide, on s'habille et dans la matinée, on fonce dans une maternité où initialement je pensais m'inscrire pour mon accouchement. Je passe un petit peu les détails parce que sinon ça va encore durer 3 heures, mais ma prise en charge, elle est plutôt rapide. Et du coup, je me fais examiner par une interne. Donc voilà, je lui explique que je suis enceinte, que j'ai eu une violente douleur quelques heures plus tôt, que j'ai pas de saignement, mais voilà, elle me dit on va faire une échographie de contrôle, et là on voit mon utérus apparaître à l'écran, on voit des petits trucs blancs dedans, et là elle met du son au niveau de l'échographie, et là on entend un petit cœur battre.
Ah ouais, donc rassurant, et puis un moment de grande émotion, quoi.
C'est une montée de soulagement, de bonheur, d'émotion qui me prend aux tripes. Je tourne la tête vers mon mari, je vois qu'il a les larmes aux yeux, moi j'ai les larmes aussi, et putain, on se dit ça y est, quoi. Enfin, il est là, il est bien là, on l'entend, le petit cœur, il est bien là, c'est juste génial. L'interne me dit, écoutez... moi, de par mon examen, tout va bien, le petit embryon, il est bien implanté, la taille correspond à votre terme, le cœur bat, tout va bien, il n'y a pas de saignement au niveau de votre col, tout va bien. Et je lui dis, quand même, j'ai fait un malaise vagal, enfin, c'était pas une douleur...
Ouais, non, c'est clairement pas anodin.
Exactement, voilà, c'était pas du tout anodin. Elle me dit, bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à l'obstétricienne de garde de venir pour avoir un deuxième avis. Ok, pas de problème, on attend un petit peu... L'obstétricienne de garde arrive, elle m'examine, pareil, elle me dit « Tout va bien, madame, vous n'avez rien. » Donc, on s'excuse un petit peu, parce qu'au final, tout allait bien. On s'excuse avec mon mari d'avoir pris une place et d'avoir un petit peu fait perdre leur temps à l'équipe pour, au final, pas grand-chose, quoi. Et j'explique à l'obstétricienne, je lui dis « Je suis désolée, en fait, on était peut-être un petit peu stressés, on a eu un parcours difficile pour que j'arrive à tomber enceinte. » Et là, l'obstétricienne, elle me casse direct, mais sur un ton dédaigneux. Elle me dit « Mais madame, vous savez, c'est pas parce que vous avez fait de la PMA que vous êtes différente. Maintenant que vous êtes enceinte, vous êtes comme toutes les autres femmes, donc c'est bon, quoi. » Genre, elle m'a rembarrée, mais d'une force...
Non, mais sérieux ?
Ah oui, je te jure, on est restés comme deux cons avec mon mari à se regarder. Je pense qu'en temps normal, on lui serait rentré dedans, mais on était tellement... tellement soulagée qu'au final, notre petit bébé aille bien. Moi, mes douleurs, elles avaient presque complètement disparu, donc on était plutôt rassurés. Et là, en gros, l'obstétricienne me dit, mais vos douleurs, c'était très certainement des douleurs gastriques. Ça arrive en début de grossesse, voilà, sous coup des hormones. Le transit, il peut être un peu ralenti. Donc, c'est des douleurs gastriques. Il faut pas paniquer. Voilà, donc il faut que je prenne sur moi. Bon, bah, écoute, pas de problème, quoi. J'avais plus mal. Bébé va bien. Au final, c'était une fausse alerte. Mon mari et moi, on est rassurés, on est sur notre petit nuage, tout va bien. La journée se passe et pas de problème, j'ai pas de douleur. Les jours qui passent, pareil, tout va bien. On arrive du coup 2 jours après au fameux mercredi où j'avais mon échographie de datation de prévu. Et du coup, l'échographie se passe très très bien. J'ai pas eu de douleur à nouveau. La sage-femme m'explique que non, elle confirme le diagnostic de l'obstétricienne aux urgences. Que c'était des douleurs gastriques, qu'on peut être un petit peu constipé au début, voilà, il faut pas trop s'inquiéter, faut prendre sur soi. Bon, bah d'accord, ok, pas de problème. Et 2 jours se passent encore et le vendredi soir, en fin de journée, je termine mon travail et je décide d'aller voir ma maman qui habite pas très loin de là où je travaille pour aller boire un petit café avec elle avant de rentrer chez moi. Et en fait, en arrivant chez elle, je sais pas ce qui se passe, mais mes douleurs reviennent. Mais genre puissance 20 000. Je fais un nouveau malaise vagal chez ma mère. Donc la pauvre, à ce moment-là, elle est pas super bien pour moi. Elle me dit, un peu paniquée, j'appelle le 15. Je lui dis, mais non, appelle pas le 15. J'ai déjà été examinée 2 fois. C'est que des douleurs gastriques. Ça va passer. Voilà. Mais sauf que moi, je suis complètement inerte sur le canapé, quoi. Complètement amorphe, pas bien, quoi.
Oh, mais tu perds pas connaissance ?
Non, je pense pas avoir perdu connaissance. Par contre, je suis complètement dans les vapes, c'est-à-dire que j'ai les yeux fermés, j'entends ce qui se passe autour de moi, mais je peux vraiment plus répondre. Je suis dans une bulle, enfermée dans ma douleur. J'ai mal dans le bas-ventre, ça me remonte jusque dans les côtes, dans le bas du dos. C'est vraiment... pour des douleurs gastriques, c'est plutôt fort, quoi. Et à un moment donné, je me dis, j'ai déjà vu des professionnels, ils m'ont dit que tout allait bien, donc je prends sur moi, encore une fois.
Ouais, tu leur fais confiance et tu te dis, il n'y a pas de raison de remettre ce qu'ils disent en question, quoi.
Oui, voilà, exactement. Aucune raison de remettre leurs compétences en cause. Donc, je prends sur moi. Et du coup, je passe aussi les détails parce que ça va encore être trop long, mais la soirée se passe. Mon mari est venu me rejoindre chez ma mère. Mes douleurs ont fini par passer au bout de quelques heures. On rentre à la maison. Et le samedi matin, mon mari me dit, écoute, ça serait peut-être bien quand même qu'on aille voir notre médecin traitant pour faire encore un contrôle, pour voir, parce que ces douleurs, elles sont quand même bizarres. Et voir s'il peut te donner un petit traitement ou un petit quelque chose pour que tu ailles mieux. Et du coup, le samedi matin, on va voir mon médecin traitant. J'ai un rendez-vous dans la matinée. Bon, le pauvre, il a pas d'échographie à me faire, il a pas le matériel nécessaire, donc il en conclut, comme ses consoeurs, que c'est des douleurs gastriques, que je suis certainement constipée. Donc il me donne, il me prescrit des suppositoires, il me dit achetez-vous du jus de pruneau et puis voilà, ça va sûrement passer.
Mais c'est dingue en fait qu'il y a personne du coup qui n'a vérifié cette histoire de constipation. Enfin, je veux dire, la constipation, si c'est vraiment ça, tu le vois très bien en échographie en fait sur les intestins.
Oui, ils auraient pu vérifier la constipation, mais honnêtement, ils l'ont pas fait. Moi, j'avais pas l'impression d'être constipée parce que voilà, on est entre nous, mais j'allais à la selle tous les jours, donc pour moi, c'était pas ça. Mais bon, moi, je suis pas à l'intérieur, je peux pas savoir ce qui se passe. Donc le samedi matin, j'avais toujours encore un petit peu mal, beaucoup moins, mais la douleur était plutôt constante, sans être trop vive, mais elle était plutôt constante, ça partait pas. Et on est rentré à la maison après le rendez-vous chez le doc et après être passé à la pharmacie et je me reverrai toujours arriver chez moi. J'avais encore mon manteau et mes chaussures sur moi et je me revois rentrer dans la maison, poser mon sac de pharmacie avec mes suppositoires sur ma table. Et là, je sais pas ce qui se passe. Je sens quelque chose craquer en moi et je m'effondre. Par terre, en plein milieu de ma salle, de tout mon poids.
Oh mon Dieu.
Mon mari arrive, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Je dis, j'ai mal, je suis pas bien, j'ai trop mal. On est mi-novembre, il fait un froid de canard dehors et je commence à me déshabiller complètement. j'ai chaud, je suis trempée de sueur. Vraiment, je dégouline littéralement et je me mets pratiquement toute nue, quoi. Je garde juste ma culotte et mon débardeur sur moi. Mon mari me dit, bon, écoute, je vais te mettre sur le canapé, hein, pour t'allonger, tu seras mieux. Et là, il me dit, est-ce que tu veux mettre un suppositoire? Je dis, non, je peux pas en mettre, j'ai trop mal, je peux pas... Il va falloir attendre que ça passe parce que là, c'est tellement intense, j'ai tellement mal que je peux pas. On attend un petit peu et sauf que les douleurs se calment absolument pas. Je suis complètement inerte sur le canapé. Le moindre millimètre de mouvement me fait presque hurler de douleur. Et à un moment donné, je dis à mon mari, appelle au secours, quoi. Appelle le 15, je suis en train de mourir. Vraiment, c'était un truc que je ressentais au fond de moi. Je lui dis, je suis vraiment en train de mourir. Appelle au secours parce que là, ça va pas du tout.
Oh, putain, l'angoisse.
Il exécute ma demande tout de suite. Il appelle le 15 et puis du coup, il explique ce qui se passe. Et quelques minutes après, enfin à peu près 45 minutes après, il y a une ambulance qui arrive chez moi. Ils sont deux, ils prennent ma tension. J'ai un petit 9 de tension de mémoire, alors que souvent, je suis plus souvent à 13. Et là, honnêtement, ils savent pas trop quoi faire. Ils me demandent si je suis inscrite dans une maternité. Je leur dis que non. Et du coup, ils décident quand même de m'emmener aux urgences maternité de la clinique où il y a le centre de PMA où j'ai fait mes inséminations pour aller faire un contrôle. Je suis incapable de monter sur le brancard. Ils doivent s'y prendre à deux pour me déposer dessus. Et je hurle. La manœuvre me fait tellement mal que je hurle. Ma respiration, elle devient difficile. Je suis vraiment trop mal, quoi, vraiment.
Oh mon Dieu, je suis désolée.
Ouais, c'est chaud. Je suis vraiment enfermée dans ma douleur. C'est horrible. Je n'arrive plus à penser, je n'arrive plus à parler. Je suis une boule de douleur. Même allongée sur le brancard, je sens des malaises venir, repartir, revenir. J'arrive même plus à communiquer tellement j'ai mal. On arrive aux urgences obstétriques de la maternité. Je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Je suis complètement ailleurs. J'ai malheureusement pas beaucoup de souvenirs de ce qui s'est passé à ce moment-là, tellement j'étais dans les vapes. Tout ce que je sais, c'est que j'ai eu une prise de sang à mon arrivée. J'ai été mise dans une chambre. Mon mari était toujours avec moi à ce moment-là. Et à un moment donné, je sens que entre mes jambes, dans mon intimité, en fait, il y a quelque chose qui coule. Je sens qu'il y a du liquide qui coule. Et là, je demande à mon mari de me ramener un mouchoir du PQ, enfin n'importe quoi pour que je puisse vérifier. Et quand je ressors le mouchoir, bah je vois qu'il y a du sang. Donc bah voilà, c'est reparti quoi. C'est tout ça pour ça, toute cette attente pour finir en fausse couche. Là, je me dis les douleurs cumulées au sang, bah voilà, tout ça pour rien. Tous mes rêves s'envolent en éclats. Mon mari, il est dégoûté. Je le vois bien à sa tête aussi. Voilà, c'est vraiment juste trop la merde, tout ça pour ça. Et quelques temps après, dans l'après-midi, l'obstétricien de garde m'emmène dans une salle pour me faire une échographie. On commence par une échographie pelvienne. On voit et on entend quand même le cœur de notre bébé. Donc déjà, ça, c'est plutôt encourageant. À ce niveau-là, il n'y avait pas de problème. L'obstétricien, du coup, lui, vérifie ma constipation et il me dit qu'il n'y a rien, quoi. Il me fait même un toucher rectal. Il me dit non, madame, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas constipée, ça ne vient pas de là. Il décide de passer en échographie classique et puis il passe pas mal de temps à regarder partout. La sonde, elle remonte sur mon ventre et puis après, il repasse en échographie pelvienne, il repasse encore en échographie classique. Il reste vraiment un long moment à m'examiner. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre, quoi, franchement
Mais il t'explique absolument pas ce qu'il fait?
Ah non, à ce moment-là, il m'explique pas du tout ce qu'il fait, ce qu'il voit. Il est vraiment concentré.
Ouais, il est hyper concentré, quoi.
Oui, voilà, il est très, très concentré. Moi, je suis dans les vapes, mais j'essaie quand même de me concentrer sur ce qui se passe pour essayer d'en louper aucune miette.
Et ton mari, il était avec toi ?
Oui, mon mari, il est avec moi. Il n'a clairement pas la tête des bonjours. Il ne sait pas du tout ce qu'il est en train de se passer, moi non plus. On est quand même un petit peu rassurés, lui et moi, sans se l'être dit, mais on a entendu le cœur de notre bébé, donc c'est que tout va bien, déjà. Et puis là, l'obstétricien, il se met à dire « il y a un truc bizarre ». Je vois des zones de flou partout dans votre abdomen, dans votre ventre, au niveau de votre utérus. Et il me dit, est-ce que vous avez mal au niveau des épaules ? Effectivement, je lui dis, oui, j'ai mal effectivement au niveau de la clavicule, en fait, droite. J'ai une grosse gêne, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est vrai que vu mes douleurs bas-ventre, la clavicule, j'en avais un petit peu rien à faire. Et il me dit, ça me plaît pas du tout ce que je vois, je sais pas quoi faire. Ce que je vous propose, c'est que je refais une prise de sang pour voir, pour refaire un contrôle. Parce que la prise de sang que j'avais faite à mon arrivée aux urgences, elle était vraiment catastrophique. J'étais en anémie sévère, mon taux d'hémoglobine et d'hématocrite, il était juste catastrophique. Et il me dit, on refait une prise de sang pour voir si les résultats ont un peu bougé. Et en fonction, je vous passerai sûrement au bloc. Pardon, au bloc, c'est-à-dire ?
Ouais, parce qu'en fait, c'était quoi le flou ? Tu saignais ? C'était une hémorragie ?
Bah, je saignais un tout petit peu, mais en fait, c'était vraiment dans mon abdomen, au niveau de l'échographie, il y avait des zones d'ombre.
Ouais, donc une hémorragie interne.
Et oui, Anne-Fleur, t'as exactement compris, c'était une hémorragie. Alors en fait, je vais expliquer ce qui s'est passé. Du coup, en début de soirée, l'obstétricien arrive dans ma chambre avec toute une équipe. Et on me dit, madame, on vous emmène au bloc tout de suite. Comment ? Et que quoi ? Votre prise de sang, elle est encore pire que celle que vous avez faite à votre arrivée. Vous êtes de plus en plus mal. Il faut qu'on aille voir. Moi, à ce moment-là, clairement, ma première pensée, c'est mon bébé. Je lui dis, mais non, enfin, comment on fait, quoi ? Et là, l'obstétricien, il me dit mot pour mot, notre priorité maintenant, c'est vous qui êtes en danger. Et là, c'est juste pas possible, quoi. Je comprends pas ce qui se passe. Là, c'est branle-bas, combat. Tout le monde arrive, on me prépare, on m'habille, on me met une charlotte sur la tête et je pars, quoi. Mon mari, il a juste le temps de me faire un bisou sur le front et je pars. Je sais pas ce qui va m'arriver. Je sais pas si mon bébé, il va survivre. Je suis vraiment dans le noir, quoi. C'est horrible. Et du coup, on m'endort, on me fait une anesthésie générale et je me réveille en salle de réveil où je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, je ne sais pas quelle heure il est. Il y a une infirmière qui arrive très rapidement à mes côtés qui me dit que tout va bien, que l'opération s'est bien passée. Moi, tout de suite, je lui demande « Et mon bébé ?» Malheureusement, elle n'a pas l'information, elle ne sait pas ce qui s'est passé, donc elle ne peut pas me dire. Donc je lui demande de voir mon mari tout de suite. Je lui dis, je veux le voir maintenant, c'est maintenant, quoi. Et quelques temps après, il arrive à mes côtés et lui, du coup, il sait ce qui s'est passé parce que quand l'obstétricien est sorti du bloc, pendant que moi j'étais en salle de réveil, il est allé voir mon mari pour lui expliquer ce qui s'était passé. Et du coup, mon mari m'explique ce qui m'est arrivé. Donc, bilan des courses, mes douleurs gastriques n'étaient pas du tout des douleurs gastriques. Pour mon insémination artificielle, ce qui s'est passé, c'est que, sans le savoir, personne ne le savait, j'ai eu une double fécondation. En fait, j'étais enceinte de jumeaux.
Comme ton mari t'avait dit, en fait.
Exactement, comme mon mari avait dit, divination bonjour. Hein. Donc, sur mes deux embryons fécondés, il y en a un qui est bien descendu dans mon utérus. Mais le deuxième, il est resté bloqué dans une de mes trompes.
Ah merde, donc extra-utérin.
En simultané, j'avais une grossesse intra-utérine et une grossesse extra-utérine. Mes douleurs, c'était tout simplement ma trompe où il y avait la grossesse de bloquée dedans qui était en train de souffrir. Ma trompe, elle a explosé.
Oh la vache.
J'ai fait une hémorragie interne. On m'a retiré presque 1,8 litres de sang pendant la célioscopie. On m'a retiré ma trompe, du coup, hein, j'ai une salpingectomie.
Ah la vache, donc vous avez vraiment réagi au dernier moment possible pour que t'aies quand même une issue, que tu en sortes vivante en fait.
Ouais, c'est chaud. Et l'obstétricien, en sortant du bloc, il a dit à mon mari, Si on avait attendu encore 12 heures, c'était terminé. Moi, j'étais plus là, je mourais d'une hémorragie interne.
Ah ouais, donc une question d'heure, quoi, pas de jour.
Ah bah oui, oui, hein, complètement. La prise en charge, elle a été beaucoup trop tardive. Hein. Quand tu penses que j'ai été examinée deux fois la semaine qui a précédé mon intervention et que personne n'a rien vu, personne s'est dit, tiens, on va aller quand même vérifier les trompes pour voir s'il n'y a pas autre chose. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la combinaison d'une grossesse intra et d'une grossesse extra en simultané, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Ça s'appelle une grossesse hétérotopique et c'est tellement rare qu'en fait, les médecins, ils pensent même pas à ça. Ils vont aller chercher d'autres diagnostics, mais ils pensent jamais à ça sur le coup. Moi, naturellement, quand mon mari m'explique tout ça, je suis un peu, choquée quand même. Je me dis que c'était chaud. Et je lui demande, et bébé, du coup, comment il va? Et mon mari m'a dit qu'il savait pas, que l'obstétricien, pendant l'intervention, il a essayé de toucher le moins possible à mon utérus, pour pas faire du mal à mon embryon. Mais que, à ce moment-là, précis, il peut pas savoir, ce que ça va donner. Il a quand même dit à mon mari de ne pas nous accrocher.
Non, et puis, même si on comprend l'idée et le raisonnement du médecin, ne pas s'accrocher, c'est complètement utopique. Bien sûr que, t'es enceinte, tu l'as voulu, vous l'avez attendu, bien sûr que vous êtes accrochée.
Ça fait bien mal quand même, parce que j'ai quand même eu une cœlioscopie exploratrice, une anesthésie générale, une hémorragie interne. Donc commencer dans la vie à 5 semaines avec tout ça pour un embryon, c'est vraiment... c'est vraiment pas l'idéal, quoi. Et en prime, parce que c'était suffisamment pas assez merdique ce qui m'était arrivé, l'obstétricien, quand il a vu mon mari en sortant du bloc, il lui a dit, mais monsieur, vous auriez pu me dire que votre femme, elle avait de l'endométriose. Et mon mari lui dit, non, elle en a pas, elle a eu une suspicion, elle a fait des examens, ils n'ont jamais rien trouvé, elle en a pas, quoi. Et là, l'obstétricien lui dit, oui, elle a des nodules d'endométriose dans le corps.
Mais... ça pourrait expliquer tellement de choses, en fait, dans ton parcours, l'endométriose.
Ah bah oui, c'est ça. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique toutes les douleurs menstruelles que j'avais depuis que j'étais adolescente. Et ça explique surtout mes problèmes de fécondité. On était rentrés dans la catégorie des couples en infertilité inexpliquée. Au final, c'est plus du tout une infertilité inexpliquée. Hein. C'était très certainement l'endométriose qui a fait que j'ai eu beaucoup de mal à tomber enceinte. Ouais, c'est ça.
D'accord. Donc, toutes ces nouvelles-là, c'est les nouvelles que ton mari te donne. Finalement, tu n'as pas encore vu le médecin. C'est quoi la suite?
Du coup, une fois que j'ai terminé en salle de réveil, je suis reconduite dans ma chambre. Donc, je passe la nuit en observation dans ma chambre. Et puis, le dimanche matin, l'obstétricien qui m'a opérée... quand il termine sa garde, en fait, il est venu me chercher dans ma chambre pour faire une échographie de contrôle, justement pour voir mon bébé, s'il était toujours là, s'il était toujours en vie. Et puis, mon bébé allait bien, son petit cœur battait toujours. Pas de problème. Là, il me dit, écoutez, pour le moment, il est là, mais il a que 5 semaines. Après avoir vécu tout ça, on n'a aucun moyen de savoir sur le long terme ce que ça va pouvoir donner. C'est soit il va s'accrocher, tout va bien se passer, il y a des risques de malformations qui pourraient apparaître, ou d'autres problèmes. Donc j'étais rassurée, mais en même temps inquiète de ce que ça pourrait donner par la suite, malheureusement. Et puis, pour terminer, dans la journée du dimanche, en fait, on a dû procéder en urgence à une transfusion sanguine pour moi. Parce que j'avais perdu tellement de sang que physiquement, j'étais vraiment extrêmement fatiguée. Je faisais de la tachycardie. Naturellement, 1,8 litre de sang en moins dans le corps, c'est pratiquement la moitié de mon sang. Donc ils ont décidé de me faire une transfusion sanguine pour m'aider. Donc au final, ça m'a fait du bien. Moi, je me suis vite rendu compte que grâce à la transfusion, j'ai vite récupéré quand même. Je me suis sentie mieux rapidement. Par contre, il y avait quand même une crainte de l'anesthésiste quant à une transfusion sanguine pour une femme qui est enceinte. Voilà, en fait, il n'y a aucune donnée qui pourrait justifier ce que va devenir un bébé qui a eu une transfusion sanguine en tout début de vie comme ça.
Oh, c'est dingue.
Oui, c'était complètement dingue. C'était un week-end de malade. un week-end fort sympathique. Donc, en gros, après, voilà, moi, je suis rentrée chez moi pour me remettre de mon opération. J'ai été arrêtée 2 semaines. Les suites opératoires d'une cœlioscopie, c'est vraiment pas un très bon moment. J'ai eu beaucoup de douleurs. Je marchais comme une petite vieille voûtée parce que je pouvais juste pas me relever tellement mon ventre me faisait mal. J'ai 4 super belles cicatrices sur mon ventre. Mais bon, tu relativises, tu te dis, allez, je suis en vie. Aux dernières nouvelles, mon bébé, il était toujours là, il allait toujours bien. Donc, on se rassure comme ça. Et puis, très vite, on arrive au mois de décembre, où là, j'avais ma première vraie échographie officielle de grossesse à faire. Et on y va avec mon mari, on est vraiment pas rassurés à ce moment-là. On a peur de ce qu'on va nous dire, on a peur de voir que notre embryon... soit n'est plus là, soit c'est mal développé et qu'il y a un problème. On a clairement peur à une mauvaise nouvelle, mais au final, miracle, hein, petit embryon va bien, tout est ok, tout est normal, la taille, tout est parfait.
Génial, donc là c'est la fin du premier trimestre, c'est ça ?
Oui, voilà, c'est ça, c'était l'échographie de la fin du premier trimestre, donc j'ai survécu au premier trimestre, mon bébé va bien, il s'est bien développé, tout va bien et toute cette merde, heureusement, est terminée et j'ai pu, par miracle, mener ma grossesse à terme.
Waouh, un vrai warrior ce petit bébé.
Ouais, c'est un petit guerrier, c'est un petit warrior quand tu penses tout ce qu'il a vécu en tout début de vie et savoir que j'ai pu mener ma grossesse à terme, c'est vraiment incroyable. Du coup, au mois de mars, on fait la deuxième échographie officielle et tout va bien, tout est parfait. On apprend que c'est un petit garçon. Donc on est sur notre petit nuage. Moi, à côté de ça, si on retire l'épisode de la grossesse hétérotopique, j'ai une grossesse ordinaire. Je suis en pleine forme, j'ai aucune douleur, j'ai aucun mot. Vraiment, je suis vraiment au mieux de ma forme. J'ai une grossesse parfaite. Je dors comme un bébé. Mon ventre, il m'a jamais gênée à aucun moment donné, même jusqu'à la fin. Des débuts difficiles, mais au final, le reste, franchement, c'était parfait. Donc, c'était que du bonheur. Vraiment, je souhaite à tout le monde d'avoir une grossesse aussi belle que la mienne, vraiment.
Bah, dis donc, t'es pas rancunière quand même, hein, parce que ça a été pas un début de tout repos. Et alors, est-ce qu'on peut parler aussi un petit peu de ton accouchement ? Parce que je crois que tu m'as dit que ton accouchement avait été un petit peu compliqué. Si tu veux nous en dire 2 mots, ou peut-être que tu ne préfères pas, c'est comme tu veux.
Oh, moi, ça me dérange absolument pas de parler de mon accouchement, mais en fait, je voudrais pas, effrayer les futures générations de femmes qui vont accoucher, parce que je pense qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de femmes qui vont reprendre leur pilule. Non, bon, allez, je raconte. Du coup, un accouchement, malheureusement, on ne sait jamais comment ça va se passer. Moi, en quelques mots, pour résumer, mon terme d'accouchement était prévu le 8 juillet. C'était un lundi. C'était facile à calculer parce que j'avais été inséminée le 8 octobre, donc mon terme était fixé au 8 juillet. Fin juin, j'étais toujours enceinte, hein, pas de souci. Et puis, le vendredi 5 juillet, en fin de journée, je perds les os, naturellement. Mais vraiment, je les perds franchement. C'est très impressionnant. À ce moment-là, je suis persuadée que j'ai absolument pas fissuré ma poche. Hein. Je suis certaine qu'elle a vraiment craqué de plein fouet. Donc je préviens mon mari, je lui dis « Écoute, j'ai perdu les os, je me prends une petite douche tranquillement, on boucle les valises et puis on va aller à la maternité. » On arrive à la maternité, donc je suis examinée, on me pose le monito, on me fait le test pour voir si j'ai bien rompu. Aucun problème, j'ai vraiment rompu. J'ai des contractions, mais vraiment 3 fois rien. En tout cas, elles me font pas mal. En gros, c'est comme si j'avais mes règles. Hein. Au niveau douleur, c'est des petites douleurs de règles pour moi. Donc vraiment, rien de bien méchant. Mon col, il est encore bien présent, encore long. J'ai 1 cm de dilatation, mais vraiment, je suis au tout début. Donc, naturellement, vu que j'ai rompu la poche des os, je suis gardée à la maternité. Hein, je ne peux pas rentrer chez moi.
Ouais, pour la stérilité de bébé aussi, qui est plus du tout protégée, là.
Oui, c'est vraiment pour pouvoir protéger le bébé. Et puis, je me disais quand même que l'accouchement, il allait être imminent. Quoi qu'il advienne, il va se passer quelque chose dans les prochaines heures. Et le problème, c'est que le samedi matin, j'ai passé la nuit là-bas. Et le samedi matin, je suis réexaminée. Mon col, il n'a pas bougé 1 mm.
Ah mince.
Donc, il n'a pas bougé, voilà. Et l'équipe décide de ou poser un tampon de Propess. En fait, c'est un petit tampon qu'on insère jusqu'au niveau du col de l'utérus et ça libère des hormones pendant 24 heures. Et en fait, c'est censé ramollir, assouplir et faire en sorte que le col s'ouvre un peu plus rapidement, grâce aussi aux contractions naturelles. Donc, je garde mon tampon de Propess pendant 24 heures. Entre deux, mes contractions sont toujours là, mais honnêtement, voilà, c'est vraiment rien de bien méchant. Bébé va bien, lui, les monitos sont bons, il a aucun trouble du rythme, il est en pleine forme, donc déjà ça c'est un point très positif. Le dimanche matin, on me retire mon tampon de Propess, on me réexamine et le col il a toujours pas bougé quoi, toujours pas.
Ah merde, ça doit commencer à faire un peu long là.
Donc moi je commence à être un petit peu fatiguée à ce moment-là, ça fait ça fait plus de 24 heures que je suis hospitalisée, je dors pas bien, clairement tu dors pas bien sur les lits à l'hôpital, voilà, et puis t'as l'excitation, tu dis que ton accouchement il est quand même imminent, mais en fait tu dors pas, t'arrives juste pas à te reposer.
Et puis tout le monde te dit dors pendant que tu peux, mais c'est insupportable parce que t'y arrives pas.
Oui oui, c'est ça, tout le monde te dit il faut vous reposer madame pour l'accouchement, mais toi t'as juste envie c'est d'être à ton accouchement et puis de rencontrer ton bébé pour la première fois, c'est tellement attendu. Moi j'avais qu'une hâte, c'était vraiment de le voir. Et puis et en fait du coup le dimanche matin, vu que mon col il avait pas bougé, la sage-femme décide de me passer en salle de travail pour me poser une perfusion d'ocytocine pour déclencher chimiquement mes contractions pour accélérer un peu le travail. Donc voilà, moi on me pose la perfusion je crois vers 9h du matin. J'ai pas ma péridurale dans la foulée parce que je gère hyper bien mes contractions. Mais vraiment, ça me fait un peu mal, mais c'est vraiment très supportable. La perfusion d'ocytocine, en fait, elle est graduée jusqu'à 8. Et donc on commence à 1 et au fur et à mesure de la journée, en fait, la sage-femme, elle vient, elle t'en remet une dose à chaque fois pour aller jusqu'à 8. Donc logiquement, plus la dose augmente, plus les contractions sont fortes et intenses. Et moi, en fait, j'ai tenu jusqu'à 7 sur 8 avant d'avoir ma péridurale.
Yeah, bravo.
Ah ouais, plutôt bien joué. J'étais fière de moi quand même d'avoir tenu le coup jusque-là. Mais vraiment, malgré la perfusion d'ocytocine, moi, les contractions que j'avais l'impression d'avoir mes règles. Hein. Vraiment, c'était pas plus fort, c'était pas plus douloureux. J'étais en pleine forme, je bougeais, je dansais sur mon petit ballon. J'étais bien et ils sont quand même venus me poser ma péridurale vers 16h. Alors, c'était pas à cause de mes contractions, mais c'était parce que la sage-femme voulait aller masser manuellement mon col pour essayer de le faire un peu bouger plus rapidement. À ce moment-là, il avait un petit peu évolué. J'étais à 2 ou 3 cm, je crois. Mais bon, c'était pas encore bien franc. Elle m'a dit, on va quand même essayer de vous aider parce que sinon, ça risque de finir en césarienne. À ce moment-là, moi, la césarienne me faisait pas peur, hein, je m'y étais préparée, donc voilà, pas de problème, j'attends de voir, et puis je fais confiance à mon corps, je me dis, mon col, il va s'ouvrir, et je vais quand même réussir à faire un accouchement par les voies naturelles. Donc j'ai ma péridurale, ça se passe très bien, c'est vraiment pas douloureux. C'est vraiment passé comme une lettre à la poste. Malgré tout, même si jusque-là, j'avais géré mes contractions, je t'avoue que je suis bien contente d'avoir eu ma péridurale parce que c'est quand même bien pratique. On se sent quand même beaucoup mieux après. Hein.
Ah, mais c'est clair que c'est une sacrément belle invention, la péridurale.
T'as plus aucune douleur, ça te fait plus du tout mal. Franchement, t'es contente d'avoir fait la guerrière juste avant, mais t'es quand même bien contente d'avoir ta péridurale et de plus du tout avoir mal. Je conseille vraiment à tout le monde de la prendre parce que c'est vraiment super sympa.
Ouais, team péridurale ici aussi.
Et donc du coup, j'ai ma péridurale, mon col bouge de mieux en mieux, il s'ouvre de plus en plus et en fin de soirée, le dimanche, il est à 8 cm. Donc, ce qui est plutôt pas mal, sauf qu'en fait, à ce moment-là, j'ai une stagnation de l'ouverture de mon col. Pendant presque 2 heures, mon col ne bougera plus du tout. Et le problème, c'est qu'avec la perfusion d'ocytocine, en fait, depuis plusieurs heures, mon utérus commence à montrer des signes de faiblesse.
Ah ouais, de la fatigue.
Ouais, voilà, exactement, de fatigue. Il reste contracté des fois plusieurs minutes. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Et l'obstétricien de garde vient me voir régulièrement et commence à faire un peu la grimace. Il commence à me dire, bon, il y a encore 2 cm à faire jusqu'à dilatation complète, plus le passage de bébé dans le bassin, plus les poussées finales. On est déjà à 1h du matin. Donc clairement, là, on est le lundi 8 et il me dit, madame, on n'a plus le choix, vous êtes trop fatiguée, on vous passe au bloc.
Mais tu m'étonnes, ça fait combien de temps à ce stade-là que tu y es, là que tu es arrivée et que tu as perdu les os?
Bah écoute, j'y suis depuis le vendredi soir, donc ça fait 50 heures, 55 heures de travail, donc ce qui est déjà pas mal.
Oui, pour les femmes qui ne sont pas passées par là et qui passeront par là, ce n'est clairement pas la norme. Il ne faut pas s'effrayer. C'est pas si courant d'avoir 50 heures de travail. C'est beaucoup.
Non, bien sûr, il faut pas que les femmes s'effraient. C'est des choses qui arrivent, mais voilà, autant d'heures de travail, ça reste quand même rare. Après, même si j'ai eu beaucoup d'heures de travail, j'ai absolument pas souffert. Donc voilà, c'était long, mais j'ai pas eu 50 heures de travail dans la souffrance où j'en pouvais plus, je l'ai vraiment très bien géré et puis voilà, donc au final le couperet tombe, on passe au bloc. Moi vraiment à ce moment-là j'ai pas peur, je m'y étais préparée à la césarienne, je m'étais à peu près préparée à toutes les éventualités. Je suis vraiment en mode, bah de toute manière avec tout ce que j'ai vécu, peu importe la manière dont je vais accoucher, je m'en fous, le résultat c'est d'accoucher, c'est de voir mon fils le plus rapidement possible. Donc, je suis pas hyper rassurée quand même. J'ai un peu la trouille et puis je suis un peu fatiguée, mais bon, j'y vais quoi.
Bien sûr, et puis peut-être un petit peu de soulagement aussi. La rencontre approche à grands pas là.
Oui, je pense que soulagement, oui, parce que ça commence à être long et puis que j'étais fatiguée. Hein, j'avais pas dormi du week-end, la journée, j'avais pas dormi non plus. Donc oui, le soulagement à un moment donné, dans le sens bon, ça y est, on y est, on va y aller. C'est une question de minutes, c'est une césarienne, c'est pas grave. Je vais rencontrer mon fils, c'est pas grave. On y va. C'est le principal, donc je suis emmenée au bloc, j'ai toujours ma péridurale, l'anesthésiste m'en remet une petite dose quand même. On commence la césarienne, mon mari est à mes côtés, heureusement, il a eu l'autorisation de venir à mes côtés.
Ah, c'est génial ça.
Donc il est juste à côté de moi, au niveau de ma tête, pendant qu'on commence la césarienne. À ce moment-là, je suis quand même pas très rassurée, je tremble beaucoup, c'est assez incontrôlable. J'ai pas l'impression d'avoir plus peur que ça, mais je tremble, mes bras, tout tremble. Heureusement que je suis attachée, j'ai pas de douleur, je ressens rien. Et l'anesthésiste me dit, voilà madame, on a commencé, c'est en cours, tout va bien, pas de problème.
Okay.
Et puis tout se passait bien et à un moment donné je sais pas vraiment ce qui se passe, ce qui m'arrive, je suis vachement secouée sur ma table, j'ai vraiment l'impression qu'on me triture, je bouge beaucoup, mon corps bouge, mais je me dis mais qu'est-ce qui se passe en fait là, je comprends vraiment pas.
Ouais, ça te stresse pas trop tout ça?
Bah en fait, ça commence un peu à me stresser d'être autant secouée. Je m'étais pas préparée, je pensais pas qu'on bougeait autant pendant une césarienne. Et en fait, ce que je vais apprendre par la suite, c'est que vu que mon col était dilaté à 8 cm, en fait, mon bébé était déjà plutôt bien engagé dans mon bassin. Et en fait, il a fallu faire une bonne manœuvre pour aller le chercher. C'est pour ça, en fait, que j'ai été autant secouée, autant manipulée pendant la césarienne.
Ah ouais, d'accord. Fallait aller le chercher là-bas, quoi, le sortir.
Oui, voilà,
de là.
Il a fallu un peu manœuvrer pour le sortir. Sauf qu'à un moment donné, pendant la césarienne, je sens un poids en moins dans mon ventre. Ça me fait vraiment comme une libération. Je sens que je suis moins lourde d'un coup. Et je comprends très vite qu'en fait, mon fils est né. J'entends 1h58. Donc, c'est son heure de naissance. Et sauf que je ne vois pas mon fils tout de suite. On ne me le présente pas. La sage-femme, avant que je passe au bloc, m'avait expliqué qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, qu'avec une césarienne, parfois les bébés, ils ont un petit peu besoin d'atterrir. On les emmène très rapidement juste à côté, on s'occupe d'eux. Des fois, on retire un peu le liquide qu'ils ont pu avaler à ce moment-là, mais qu'il ne faut pas que je m'inquiète. Si ça se passe comme ça, on s'occupe de lui et après, on me le ramène pour une rencontre et puis pour un petit câlin. Sauf que pour ma part, en fait, ça s'est pas passé comme ça parce que mon fils, il est parti tout de suite, donc je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu, je l'ai pas senti. Mon mari est parti avec lui, donc je suis restée toute seule. Et je sais pas pourquoi, mais ma péridurale, en fait, elle faisait plus effet. C'est-à-dire que quand on était en train de nettoyer mon utérus...
Oh mon Dieu!
Quand on était en train de vider mon utérus, de le nettoyer, en fait, ma péridurale ne faisait sûrement plus effet et j'ai clairement tout senti. Des douleurs sont apparues, j'aurais pas dû les ressentir. Donc j'ai hurlé sur la table et après c'est le trou noir. Je me rappelle de rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Mon premier souvenir après, c'est de m'être réveillée en salle de réveil. J'aurais pas dû me réveiller parce que logiquement, c'est qu'une anesthésie locale. Mais moi, je me suis réveillée et j'étais en observation en salle de réveil. Et il y avait un infirmier à mes côtés qui m'explique que j'étais devenue beaucoup trop douloureuse pendant la césarienne et qu'il a fallu m'anesthésier de manière générale. Donc, me voilà à 4h du matin en salle de réveil toute seule. J'ai pas mon mari à mes côtés, j'ai pas mon fils, je l'ai pas vu. Je sais pas.
Ouais, t'as aucune nouvelle, quoi.
Non, non, j'ai pas de nouvelles. L'infirmier me dit que bah qu'il va bien, qu'il est avec son papa, qu'ils sont en train de faire du pot à pot. Mais voilà, on me le dit, mais moi à côté, bah je l'ai pas vu. C'est hyper traumatisant. Tu l'as porté pendant 9 mois et ton enfant est né et je l'ai même pas vu, je l'ai même pas entendu. Et là, l'infirmier me dit « bah, je vous laisse vous reposer encore 1 heure et votre mari descendra vous voir avec votre bébé après. » Moi, je lui dis « non, 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 il descend tout de suite et je veux voir mon fils tout de suite. » Mais l'infirmier, il n'a rien voulu savoir. Il m'a dit « je vous laisse encore 1 heure, vous avez besoin de vous reposer. » Donc bah, là, j'ai carrément les boules. C'était pas du tout l'accouchement et la rencontre que j'avais espéré avec mon petit garçon. Donc j'attends 1 heure, il y a une horloge pas très loin de moi dans la salle et clairement je la regarde et je vois toutes les secondes, toutes les minutes passer, voilà, je la regarde et j'attends que l'heure de la venue de mon fils arrive.
Je comprends.
Et là, enfin, vers 5h du matin, je suis toujours allongée dans mon lit et j'entends sur ma droite du bruit. Et je tourne la tête et là, je vois mon mari qui arrive.
J'en ai des frissons et les larmes aux yeux d'imaginer ce moment.
Moi aussi, ouais, c'est vrai que là, j'en reparle et j'ai les larmes qui montent. Donc, bah, je vois mon mari qui arrive et il a un tout petit bébé dans les bras. Et il s'approche de moi et il est juste magnifique. Il a une peau magnifique, il est en train de dormir dans les bras de son père. Et là, je le trouve tellement beau et je fonds en larmes. Et tu vois qu'il est passé par une césarienne parce qu'il est tout frais. Tu sens qu'il n'a pas souffert par un accouchement, par les voies naturelles. Et ça me prend au cœur. Et tout de suite, je le prends dans mes bras et je pleure. Et toutes les larmes de mon corps. Et c'est tellement un moment fort, intense. Et même si cette rencontre, elle a été longue, elle a été périlleuse, elle a quand même été forte en émotion et tu oublies les douleurs, tu oublies tout ce qui s'est passé. Ton petit garçon, il est là, il est avec toi. Je le mets au sein tout de suite. Je voulais vraiment créer ce lien avec lui le plus rapidement possible. Initialement, j'étais partie pour allaiter, donc je me dis, je le mets au sein tout de suite. Donc voilà, on fait la première tétée, ça se passe très bien.
Oh, c'est génial, le moment de pur bonheur, quoi.
Donc voilà, tout va bien, on est tous les trois et à ce moment-là, c'est vraiment que du bonheur.
Ça, c'est génial, je suis tellement heureuse pour toi, pour vous, vraiment. Et donc aujourd'hui, il a 7 mois, c'est ça ?
Merci beaucoup. Donc oui, aujourd'hui, il a 7 mois. Donc, il est né le 8 juillet 2019. Malgré tout, j'ai quand même eu un petit passage difficile.
Oui, c'est ce que tu me disais, un début pas évident.
Oui, oui, voilà, j'ai fait ce qu'on appelle communément une petite dépression du postpartum. J'ai eu un gros coup de baby blues 2 jours après la naissance de mon fils. J'ai eu énormément de fatigue, la césarienne, bon bah, elle m'a complètement retournée. J'ai allaité mon petit garçon pendant 3 jours, mais l'allaitement c'était trop difficile pour moi. Je commençais à avoir des crevasses. Toutes les femmes n'en ont pas, mais moi avec mon état de fatigue, j'ai vraiment pas pu aller plus loin. C'était trop dur. Donc au bout de 3 jours, on est passé en mode biberon classique. J'étais trop fatiguée et très honnêtement, je ne me voyais pas continuer. Mon allaitement, en plus, c'est à la demande, c'est hyper fatigant.
C'est clair, c'est clair. Et puis, c'est vrai que c'est un truc sur lequel on ne peut pas trop t'aider. Enfin, en tout cas, on peut te conseiller, etc., mais on ne peut pas trop prendre le relais pour toi. Donc, c'est pas évident et je comprends.
Exactement. Il y a que toi qui peux gérer, du coup, l'alimentation. C'est très difficile. Après, il y a des allaitements qui se passent très bien dès le début, mais moi, ce n'était pas le cas. Moi, honnêtement, je me suis sentie pas le courage d'aller plus loin. Donc, on est passé sur les petits biberons. Du coup, j'ai pu déléguer un petit peu cette partie-là. Mon mari, ça lui a fait très plaisir aussi hein, de pouvoir nourrir notre fils. Donc, ouais, un gros coup de blues pour moi à ce moment-là, qui a duré en fait pendant plusieurs semaines, pardon. Donc, à partir de là, on parle plus de baby blues, on parle de dépression du postpartum. Mon bébé, il a eu des coliques du nourrisson.
Ah ouais, c'est dur ça.
Oh, oui, c'est très très dur. Moi, je connaissais pas du tout, mon mari non plus, donc on a appris rapidement ce que c'était. Donc en fait, ton bébé, il hurle du matin au soir.
Ouais, il a mal au ventre.
C'est ça, oui, il a des douleurs au ventre, il a beaucoup de gaz. La journée, il dort pratiquement pas, c'était des micro-siestes. La nuit, c'était très compliqué, il avait mal au ventre, beaucoup de gaz, et tu peux absolument rien faire pour le soulager.
Ouais, à part câliner, mais là, ça doit pas être facile sur les nerfs, sur la fatigue et encore.
C'est ça, des câlins, l'envelopper, le sécuriser. Et encore, je peux t'assurer que des fois, les câlins, ça marche pas tout le temps. Du coup, tout ça fait que les toutes premières semaines de vie de mon fils, elles sont vraiment très intenses. Moi, je dors même pas 2 heures par nuit. Et je me rappelle des bons conseils qu'on avait pu me donner avant d'accoucher. C'est surtout quand ton bébé il dort la journée, tu dors en même temps que lui. Tu vas voir, un bébé, ça dort tout le temps. Non. Un bébé, ça ne dort pas tout le temps. En l'occurrence, le mien, pas du tout. Mon fils, il dormait pas. Il faisait des micro-siestes de 10 minutes. Donc, je me reposais pas du tout. Et l'accumulation de fatigue, de stress, de questionnement, parce que t'es une jeune maman, t'es un jeune papa, t'as aussi un milliard de questions, pourquoi ceci, pourquoi ça, pourquoi est-ce qu'il est comme ça, donc t'as tout le temps ça en fait qui tourne dans ta tête tout le temps, et puis je pleurais tous les jours, c'était trop dur.
Mais tu t'es fait aider du coup, t'es allée voir quelqu'un ?
Oui, en fait, je suis pas restée comme ça. Hein. Très rapidement, j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que mon état d'esprit n'était pas normal, que j'avais besoin d'aide, que je pouvais pas rester comme ça. Donc, au plus fort de ma crise de pas bien, c'est-à-dire que je supportais même plus d'être dans la même pièce que mon fils. Hein.
Oui, et en même temps, les cris non-stop, ça tape sur le système, quoi. Enfin, c'est hyper dur.
C'est ça, c'est épuisant, mais vraiment, c'est très, très épuisant. Il faut vraiment le vivre pour se rendre compte de la difficulté que ça peut être. Mais j'ai quand même eu cette présence d'esprit, encouragée par mon mari, à me dire « Alexandra, tu vas pas bien, faut que tu réagisses tout de suite. Faut surtout pas que tu laisses les choses s'aggraver pour toi, pour Samuel. Il faut faire quelque chose. » Donc très rapidement, j'ai appelé la maternité où j'ai accouché. Je leur ai expliqué ce qui m'arrivait. Ils m'ont conseillé de prendre rendez-vous avec la psychologue de la maternité, ce que j'ai fait.
Ah, super.
Donc j'ai rencontré la psychologue. Honnêtement, ça a pas changé la face du monde. Par contre, elle a juste été choquée d'apprendre qu'avec tout le parcours que j'avais eu, tout ce qui s'était passé avant d'avoir Samuel et lorsque j'étais enceinte, elle était très étonnée qu'on m'ait jamais proposé d'avoir un suivi psychologique.
Tu n'y as pas pensé, tu n'as...
Bah non, moi, tu sais, je suis un peu en mode, guerrière. Hein. J'encaisse, je mets bien profond à l'intérieur tout ce qui m'arrive, hein, j'encaisse. Et puis là, quand tu dis à maman, toutes les barrières s'effondrent. Et tout ce que tu as vécu, en fait, remonte à la surface. C'est hyper violent. Et moi, c'est clairement ce qui m'est arrivé. Hein. La fatigue, plus tout ce qui m'est arrivé, je me suis pris tout ça en pleine tête. Donc, j'ai littéralement pété les plombs. Je suis allée, du coup, voir très rapidement mon médecin traitant. J'ai eu la chance d'échapper aux antidépresseurs. Il m'a juste prescrit des anxiolytiques pendant un mois, histoire de me déstresser et surtout pour mettre mon cerveau en mode off, pour surtout que j'arrive à dormir. Il m'a dit, déjà, si vous arrivez à dormir, vous allez voir, ça sera beaucoup mieux, vous allez vite récupérer. Donc, ça m'a fait du bien. Et à un moment donné, j'ai vu la différence. Voilà, au fur et à mesure des semaines, moi, je me sentais mieux, reposée. Mon fils, ses coliques se sont calmées. Il a commencé à faire ses nuits. Donc, au fur et à mesure, du temps, mon état s'est amélioré, le sien aussi. J'ai repris le travail. Ça m'a fait énormément de bien. Voilà, parce que le congé maternité, j'ai pas honte de le dire, moi c'était très difficile pour moi. Reprendre mon activité, me lever le matin pour aller bosser, voir mes collègues, discuter avec des gens, c'est voilà, c'est ça, ça fait vraiment du bien. Tu sors un peu de ce contexte un peu pipi, biberon, couche, et ça te fait du bien. Et voilà, grâce à ça, tout s'est remis en place, en ordre tranquillement. Maintenant, mon petit garçon, il a 7 mois. Je prends plus aucun traitement. Naturellement, je suis en pleine forme. Je suis une maman épanouie. J'ai un petit garçon qui est extraordinaire. Voilà, donc c'est que du bonheur. La finalité, c'est que du bonheur. Voilà.
Écoute, c'est super. Merci infiniment d'avoir pris le temps de me raconter toute ton histoire. S'il y avait un conseil, parce que bon, du coup, c'est vrai que t'as pas une histoire hyper simple.
Ah oui, oui, je suis désolée. J'ai beaucoup parlé. Hein. Je suis désolée. Je pense que j'ai un petit peu vidé mon sac. Hein. Tu vois, ça m'a fait du bien.
Ah non, 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 non. Au contraire, c'est nous qui te remercions vraiment d'avoir pris le temps de nous raconter toute ton histoire, ton parcours pour tomber enceinte, ton parcours pour devenir maman, qui a été quand même pas le plus évident de tous. Donc vraiment un immense merci à toi. Et c'est vrai qu'en fait, ce que tu dis sur vider son sac, c'est rigolo. C'est souvent ce que me disent mes invités a posteriori, après avoir enregistré l'épisode, c'est que ça leur a fait du bien de raconter, ça leur a fait du bien de mettre des mots sur tout ce qui s'est passé, qu'on n'a pas forcément l'occasion d'aller raconter tout son parcours, tout en détail dans notre entourage, et que ça, voilà, ça vide et ça soulage un peu. Donc je suis super contente si j'ai pu te donner cette opportunité. En tout cas, tu as une histoire hyper intéressante. Je pense que ça peut aider énormément parmi donc les auditeurs et auditrices du podcast. C'est chouette. Je suis aussi super heureuse que, bah, bien sûr, ça se finisse très bien. Mais donc, si tu avais un conseil à donner, quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer, il y a 5 ans, du coup, si mes calculs sont exacts, avant de te lancer dans tout ça, qu'est-ce que tu aurais ? Je pense que c'est difficile de résumer qu'à une chose. Est-ce que tu aurais donc... quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise, qu'on aurait aimé, que tu aurais aimé qu'on te fasse savoir avant de te lancer, ce serait quoi ?
Je sais pas si j'aurais aimé avoir des conseils ou savoir des choses. J'aurais plutôt tendance à dire que tu vois, j'aurais voulu, quand moi j'étais en essai bébé avec mon mari, il y a des choses qui me faisaient littéralement péter les plombs. Toutes les petites phrases que l'entourage proche ou moins proche peut se permettre d'avoir autour de toi. On se permet un petit peu de te juger, de juger ta vie. Et tu vois, dans le sens où si tu tombes pas enceinte, bah c'est parce que tu y penses trop, c'est dans ta tête.
Mais oui, enfin, Alexandra, il faut lâcher prise, c'est bien connu.
Oui, voilà, mais tu sais, il faut lâcher prise, hein, c'est dans ta tête, tu vois, enfin ça, c'est des choses qui me mettaient juste hors de moi, ou toutes les fameuses phrases, alors le bébé, c'est pour quand, alors Alexandra, c'est quand tu fais un bébé, bientôt 30 ans, mais à un moment donné, enfin excuse-moi, mais ta gueule, quoi, tu connais pas ma vie, tu sais pas du tout ce que je suis en train de vivre, donc voilà, plutôt un conseil pour toutes les femmes qui éventuellement vivraient la même chose, de pas se laisser un peu empoisonné par toutes ces réflexions qui peuvent paraître anodines, mais cumulées quand tu es en parcours d'essai bébé infructueux, en parcours de PMA, bah clairement ça vient de pourrir la vie. Moi je me suis jamais permise de remettre en place ces personnes. J'aurais dû le faire, je sais pas. Est-ce que ça m'aurait aidé? Je pense pas, mais tu vois, je crois qu'à un moment donné, il faut dire merde. Clairement, il faut dire merde aux gens, faudrait réussir à les recadrer et leur dire en gros, bah foutez-moi la paix, ça vous regarde pas, c'est ma vie privée, laissez-moi faire ma vie, quoi. Moi, c'est plus ça, voilà. Et puis, je dirais en plus qu'il faut quand même avoir beaucoup de courage quand on démarre un parcours de PMA. Il faut pas oublier qu'à côté de ça, bah, la vie continue. L'entourage, les proches peuvent avoir des bébés autour de soi. Donc ça, c'est difficile à vivre. C'est assez paradoxal parce que tu te réjouis forcément pour les gens que tu aimes qui vont devenir parents. Mais à un moment donné, une naissance, pour n'importe qui, c'est que du bonheur. Sauf que toi, à chaque fois, personnellement, tu te prends une grosse claque. Et ça te renvoie toujours à ta vie personnelle et au fait que toi, tu n'arrives pas à devenir parent. Donc, je conseillerais quand même de bien s'entourer de personnes sur qui vous pouvez compter et qui vous comprennent sans vous juger. Votre mari ou votre compagnon, c'est vraiment votre pilier, c'est la base. Si c'est pas solide à ce moment-là, ça va être compliqué pour la suite. Moi, je sais que mon couple, il est vraiment en béton et heureusement que mon mari a été là pour vivre tout ça à mes côtés, parce que clairement, sans lui, bah, ça aurait pas été possible. Voilà, donc entourez-vous des personnes qui vous font du bien, pensez à vous, faites des choses qui vous font du bien, voilà, et les personnes qui vous jugent et qui vous questionnent, bah, laissez tomber, faites-vous du bien, essayez des petites choses, allez vous faire masser, faites-vous un week-end, voilà, kiffez quoi, tout simplement.
Ouais, prendre juste son temps pour soi, quitte à dire fuck off au reste du monde, se recentrer sur soi, sur son couple, pour se faire du bien à soi et à son couple. C'est un bon conseil, ça.
Oui, oui, c'est ça, en fait. Il faut prendre le temps de prendre soin de soi, de prendre soin de son couple. Bon, voilà, c'est sûr que à l'instant T, moi, la finalité de toute cette histoire, bah, elle est bien là. Hein. Mon petit garçon, il est là, il est en pleine forme, donc j'ai ce recul. Mais c'est vrai que bah, ça n'empêchait pas que quand c'était mon cas, tous les mois, j'étais malheureuse comme la pluie. Et à un moment donné, bah, t'en as juste trop ras-le-bol, t'en veux à la terre entière. Pourquoi elle attend mon enceinte et pourquoi pas moi ? Malheureusement, tu vois, ce que je te dis là, c'est qu'il faut vraiment l'avoir vécu. Il faut être maman maintenant pour pouvoir se permettre de le dire. Parce que je sais que même si moi, on m'avait donné ces conseils quand j'étais en plein dedans, honnêtement, bah, je pense que ça serait rentré à gauche et ça serait directement ressorti à droite. Hein. Ben oui, mais quand tu es dedans, tu te dis non, ben oui, d'accord, bien sûr, trop facile à dire, mais je pense que chacune doit trouver sa voie et sa façon de faire ou de trouver les choses qui font du bien, et surtout il faut beaucoup 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 de courage pour arriver au bout.
Très bien. Écoute, un immense merci à toi, Alexandra. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ?
Mais de rien, je t'en prie. Merci à toi de m'avoir laissé la possibilité de pouvoir m'exprimer sur ton podcast. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite ? Bah, pas de deuxième bébé. Je suis pas prête à remettre le couvert tout de suite. Non, non, là, pour le moment, bah, juste profiter de notre petit garçon avec mon mari, le voir évoluer, le voir grandir. C'est notre source de bonheur au quotidien. Même si des fois, on est un petit peu fatigué, mais c'est pas grave. Mais le voir grandir, rigoler, gazouiller, c'est vraiment extraordinaire. Moi, je souhaite vraiment à tous les couples et à toutes ces femmes qu'ils désirent de pouvoir vivre ça, parce que devenir maman, c'est vraiment génial.
Très bien. Bah, écoute, merci Alexandra, c'est tout ce qu'on te souhaite.
Avec grand plaisir, merci à toi.
Bon, je te souhaite une très très bonne continuation et je te dis à très bientôt.
Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à toi.
Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt, le podcast. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez un nouvel épisode tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, si vous souhaitez plus d'informations sur le podcast et mes invités, direction le compte Instagram Alors c'est pour bientôt podcast ou sur le site internet alorscestpourbientotpodcast.com. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous sur Apple Podcast pour me le dire avec plein d'étoiles et un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider et de permettre au podcast de trouver d'autres auditeurs que le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.